Aujourd'hui, ce soir, nous sommes le 10 Kislev, Bezrat Hashem. Et le 10 Kislev, c'est une grande date racidique, puisque c'est le jour, vous savez, le mois de Kislev en général, est un mois qui est plein de fêtes racidiques. Pratiquement tous les 2-3 jours, il y a une fête racidique.
Il faut, parce que ce temps-là...
Voilà, exactement. Alors, le 10 Kislev, c'est très simple. C'est en fait, aujourd'hui, le 9 Kislev, c'était le jour de la naissance et de la disparition. D'accord, c'est l'année de la disparition du deuxième rabbi de Lubavitch, qui s'appelait l'Admour HaEmtzaï. Le 10 Kislev, c'est le jour où l'Admour HaEmtzaï a été libéré de prison. Parce qu'il faut savoir que pratiquement tous les rabbis de Lubavitch sont passés par la prison.
Tous.
Même le dernier, il a fait la garde à vue.
Parce que... Comment?
Parce que, je t'explique, parce qu'à l'époque, quand tu étais en Russie, diffuser la Torah et la Mitzvot était contre-révolutionnaire. Voilà. On aura l'occasion, si tu veux, la semaine prochaine aussi, de parler longuement de... Non, mais ça veut dire qu'ils allaient en prison pour ça. Il y avait d'autres qui disaient, bon, on fait en cachette, etc. Et nous, comme on n'aime pas faire le chemin en cachette, donc du coup, ils ont tous fait la prison. Il y en a même un, le rabbi Tzemar Tzedek, de mémoire, il était 60 fois en prison, 64 fois en prison.
Combien ?
64.
Oh.
En prison, oui. Alors des fois un jour, des fois deux jours, des fois une semaine, des fois deux mois.
64
mais
fois.
64 fois.
Pas 64
ans.
J'ai
compris,
64 fois. Ça veut dire que c'est... C'est-à-dire qu'ils allaient en prison, et quand ils allaient en prison, chez les chassidim, on a l'habitude d'expliquer que quand un rabbi va en prison, tout ce qui arrive à un rabbi, tout ce qui arrive à un juif en général, encore plus si ça arrive à un rabbi, ça correspond à ce qui se passe en haut. Et si en bas, on a pris le tzaddik et on l'a enfermé dans une prison, c'est-à-dire qu'il y a une accusation dans le ciel, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ou en tout cas, il y a une accusation. Et donc le tzaddik, il enlève d'abord l'accusation dans le ciel, et ça prend le temps que ça prend, et après, une fois que c'est débloqué en haut, ça se débloque en bas. C'est une approche qu'on doit avoir généralement, même nous, dans la vie. Mais nous, quand on va en prison, quand on a un truc qui nous tombe sur la tête,
ça
qu'est-ce qu'on dit
erreur.
On dit kapara. Hein, on dit bon, ça veut dire j'ai dû faire une avéra, et kapara, c'est quoi kapara? Ça veut dire bon, ben, ça me pardonne mes avérotes. Mais un tzadik, qu'est-ce qu'il va dire? Un tzadik, il a fait tellement d'avérotes pour prendre sur la tête. Un tzadik, soit parce qu'il prend les fautes du Dieu Amisraël, soit parce qu'il y a une accusation dans le ciel sur le Amisraël, et lui, il la prend, et quand il va passer par un moment de prison comme ça, il va réussir à sortir de ça, et il va réussir à libérer le Amisraël. Ou si tu veux, oui.
C'est la philosophie.
C'est pas la philosophie, c'est un chef. Quand tu as un chef, c'est lui qui prend pour tout le monde. D'accord ? Pourquoi je vous raconte tout ça maintenant ? Je vous raconte tout ça parce que quel sens ça a de fêter aujourd'hui le 10 qui se lève, de dire ce soir c'est une date racidique, le 10 qui se lève, un jour il y a un rabbi qui a été libéré de prison. Mais non, ce rabbi, on l'a connu de son vivant, on l'a connu du Japon, c'est fini, ça fait déjà 200 ans qu'il est parti. Quel sens ça a de fêter quelque chose comme ça ? Ce qu'il faut comprendre, pas que ce soit la théorie, c'est qu'il faut comprendre que quand on dit que une fois, un tzaddik a été libéré un jour. Ce jour-là, depuis, est devenu un jour de libération. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne aura un problème, il y a des jours propices pour être libéré d'un problème. Donc quand on fête des jours comme ça, comme le 10, je vous donne des dates, comme ça vous les retenez, comme le 10 qui se lève, donc c'est ce soir et demain, comme le 19 qui se lève, quand 19 qui se lève, c'est la semaine prochaine. C'est des dates comme ça, qu'il y a des rabbis qui ont été libérés de grands problèmes qu'ils avaient, ça veut dire que c'est les dates qui sont propices pour qu'Akadosh Baruch Hu nous libère des problèmes personnels qu'on peut avoir. Donc un problème personnel, ça peut être une galère qu'on peut avoir, ça peut être le fait qu'on n'arrive pas à avancer dans la Torah. Chacun de nous a ses galères et a sa sorte d'exil. Donc voilà pourquoi c'est important de célébrer ces dates-là. David y va arriver, on va dire les Chaim, pour demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider à sortir de notre galoute, de notre exil, intérieur.
Amen.
Okay. Maintenant, on va commencer Bezrat Hashem le chapitre 17. C'est arrêté, on avait terminé le chapitre 16. On va terminer le chapitre 17. On va commencer le chapitre 17, pardon. Alors, avant de commencer le chapitre 17, je voudrais faire un petit résumé où on en est. Parce qu'on a fait quand même pas mal de chapitres. Il faudrait faire un petit résumé où on en est. Quelles sont les conclusions qu'on a jusqu'à maintenant? Alors, on a expliqué comme ça. Jusqu'à maintenant, on a expliqué que chaque juif avait deux âmes. Une âme divine, une âme animale. Ça, on l'a expliqué longuement. Chapitre 1, chapitre 2. On a expliqué aussi que cette âme-là, les deux âmes, mais nous on va s'arrêter sur l'âme divine, est composée de 10 éléments. 3 facultés intellectuelles, 7 facultés sentimentales. Ça, on l'a expliqué longuement. De toute façon, on avait un tableau aussi qu'on avait distribué. On avait expliqué aussi qu'il y a 3 types de personnes qui existent dans le monde. Le tzaddik, le rachat, le benoni. Au tzaddik, on demande une perfection que même, il n'a même pas de pulsions négatives. Le rachat, malheureusement, il se laisse aller. Le benoni, il a des pulsions négatives, mais il arrive quand même à les surmonter. Mais il les a quand même, les pulsions. Mais il arrive constamment à les surmonter. Je pense que c'est important de préciser que la conclusion à laquelle on est arrivé maintenant, c'est que ce que le Tania attend de nous maintenant, il n'attend pas qu'on soit des Superman. Il n'attend pas qu'on soit des gens irréprochables. C'est pas ça ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'avec nos défauts, on apprenne à faire notre possible pour surmonter nos défauts pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tout en sachant que quand tu essaies de surmonter un défaut, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Très important à comprendre ça. Ça veut dire que je ne vais pas commencer maintenant à m'imaginer des choses que je ne suis pas. Je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Je vais juste essayer, avec ce que j'ai, d'essayer de me comporter mieux envers Akadosh Baruch Hu. Enfin, on avait expliqué, ça c'était le dernier cours qu'on avait fait, qu'en vérité, quand on demande à un juif d'être shomer Torah au mitzvot, quand on demande à un juif de faire la Torah et la mitzvot, en vérité, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un juif, au fond de lui, il a envie de faire la Torah et la mitzvot, et c'est sa nature. Et avant de commencer ce périple-là, je voudrais vous répéter une lettre du rabbi que j'ai lue hier, que j'ai trouvée très passionnante, vraiment intéressante. Je ne sais pas si on peut apprendre cette lettre-là pour tous les cas, mais en tout cas, le concept est intéressant. C'est un jeune homme qui a écrit au rabbi. Il est fiancé avec une jeune fille, et cette jeune fille, visiblement, est plus avancée que lui dans la Torah. Lui, il est moins avancé, mais il a envie de faire les mitzvot, et ça le dérange. Ça le dérange parce qu'il sent une sorte de décalage, et il a peur que ce décalage-là va ressortir plus tard dans sa vie. Un classique, une question que j'entends très très souvent, encore des jeunes hommes, des jeunes filles, etc. C'est toujours un qui avance plus vite que l'autre. Et donc il pose la question au rabbi. Il dit que faire. Et j'ai lu la réponse hier, une réponse manuscrite que j'ai lue. C'est-à-dire, en général, les réponses sont écrites, là c'est une réponse manuscrite. Il dit comme ça. Il dit, vous me dites que vous voulez faire les mitzvot. C'est pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est athée, qui veut rien faire. Là, bon, effectivement, si t'as un qui est athée, l'autre qui est religieux, bon, là il y a un décalage, on va aller nulle part. Mais c'est pas le cas ici. Le cas, c'est qu'il y a un qui est plus avancé, un qui est moins avancé, mais qui veut avancer. Alors écoutez bien ce que le rabbi dit dans cette lettre que j'ai lue. Il dit comme ça. Il dit, en vérité, un juif, dans sa nature, il a envie de faire Torah mitzvot. Écoutez bien. Il dit, ah, pourtant, on voit que malheureusement, il y a des milliers de juifs, des millions de juifs qui font pas Torah mitzvot. Il dit, il y a beaucoup de gens dans le monde aussi qui sont doués, mais qui le savent pas. Mais le jour où on va les aider à découvrir le talent, très rapidement, ils vont accrocher. Et des gens, par exemple, sont doués pour la musique.
Zéro.
D'accord? Mais jamais, ils ont pris le temps de développer ce talent de musique. Et un jour, ils vont écouter de la musique, et ils vont commencer à essayer, et pac, en quelques cours, ça va décoller. Est-ce que ça veut dire que le talent, il l'avait pas jusqu'à maintenant? Bien sûr qu'il l'avait. Vraiment, il le savait pas. Et d'où il est venu ce talent?
Il l'a développé aussi, il a pu le développer.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a en nous, qu'on ne sait pas. Et c'est pas parce que je sais pas que je l'ai que je ne l'ai pas. Et il dit comme ça, dans ce commentaire, dans cette lettre, il dit qu'en fait, ça, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Ça veut dire, pour reprendre l'exemple de la musique, il ne donne pas cet exemple, mais pour reprendre l'exemple de la musique. Si mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont musiciens, sont doués pour la musique, même si moi, je suis né dans une autre famille et que je ne le sais pas, probablement que je suis aussi doué pour la musique. Parce que ça passe dans les gènes, ce genre de choses. Et donc, le rabbi, dans ce commentaire, il dit qu'il faut dire que le fait de croire en Dieu, ça fait déjà plus de 3000 ans qu'on le fait, donc c'est dans nos gènes. Même si une personne il est née dans une famille pas religieuse et que pour lui, ça lui dit rien du tout, c'est pas parce qu'il ne le sait pas qu'il l'a pas. La preuve, c'est quoi? C'est que on voit clairement que avant de faire teshuva, une personne a l'impression que c'est un monde, qu'il n'y arrivera jamais. Et quand il commence à faire son shabbat, à faire ses mitzvot, il voit que c'est beaucoup plus facile que ça en avait l'air. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il avait déjà ça en lui. Il a fait que dévoiler quelque chose qu'il avait en lui. Et donc c'est pour ça que dans cette lettre, le rabbi disait à ce jeune homme-là, encore une fois, je ne sais pas si on peut appliquer ça dans tous les cas, mais j'ai trouvé en tout cas la réponse est originale. Et dans cette réponse, il dit, vous pouvez vous marier avec cette femme, il n'y a aucun problème, puisque voilà, vous-même vous me dites que vous voulez avancer dans la Torah et la mitzvot, et vous inquiétez pas, c'est pas si dur que ça en a l'air, vous allez avancer, vous allez voir qu'en vérité, vous allez faire que ressortir un caractère que vous avez déjà en vous. Ça en fait, c'était le thème qu'on avait dit dans le dernier cours qu'on a fait, ça fait 2 semaines avant mon départ chez le rabbi. On avait expliqué qu'un juif il doit se dire qu'en vérité, on ne fait que ressortir la ahava mais sous teret. On ne fait que ressortir l'amour caché qu'on a dans notre cœur envers Akadosh Baruch Hu. Faut pas qu'on croie qu'on est en train ici de réinventer la roue, on réinvente rien du tout. On fait que développer quelque chose qu'on avait déjà en nous. C'est justement sur ça qu'on va continuer aujourd'hui. Perek Yudzayin, chapitre 17, page 224. Bah, Zeyuvan, avec ça on va comprendre. Mashekatou, ce qui est écrit. C'est écrit dans la parasha Nitzavim. Kikarov elecha, adavar meod, beficha, ovil vafra, laasoto. Je traduis. Le verset il dit comme ça. Le verset il dit Kikarov elecha, adavar meod, car la chose t'est accessible, t'es proche, meod, c'est très proche de toi, mais fira de ta bouche, ou bilvafra et de ton cœur, là c'est toi pour le faire. Alors il faut que j'explique déjà ce qui se passe, c'est le contexte. C'est dans le Chumash Devarim, le Chumash Devarim c'est considéré le testament de Moshe Rabbeinu. Dans le Chumash Devarim même, à partir de la Parasha Nitzavim, on est à quelques jours du départ de Moshe Rabbeinu de ce monde. Moshe Rabbeinu, il parle au peuple. Et donc Moshe Rabbeinu, il a rassemblé, le jour de son départ de ce monde, il a rassemblé tout le peuple. Et il leur dit, Atem Nitzavim Ayom. Il leur dit, vous êtes tous ici devant moi. Et donc il rassemble tout le peuple juif, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Il les rassemble et il se met à leur parler. Donc, il leur dit des messages très très forts. Bon, il leur fait des remontrances aussi, bien sûr, parce que voilà, il leur dit, parce qu'il sait qu'il y a une grande période qui les attend quand ils vont rentrer en Israël. Mais il leur dit une phrase très célèbre que la Gemara s'arrête dessus. D'ailleurs, on va aller voir dans la suite du commentaire ici. Il dit comme ça, il leur dit, sachez que Kikarov Elecha Davar Meod, la chose est très accessible pour vous. C'est très facile. Beficha ou Vilvafra, la Soto. C'est très facile de servir Dieu dans ta bouche, dans ton cœur et pour le faire. Dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire. Il a mentionné trois choses. Dans ta bouche, c'est la parole. Dans ton cœur, c'est la pensée, d'accord? Et l'action, là, surtout, c'est pour le faire, ça c'est l'action. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que c'est facile d'aimer et de craindre Dieu? Est-ce que c'est facile de faire les mitzvot? Alors je vous réponds tout de suite. Faire une mitzvot par la parole, oui, c'est facile. Faire une tefila, c'est facile. Même si j'y crois pas, je peux le dire. Je peux parler. Je peux parler. Je bouge mes lèvres et je parle. Donc dire, c'est facile. Faire, c'est aussi facile. Parce que même si j'y crois pas, on me dit, tu prends des lanières de cuir et tu les mets sur ton bras, même si j'y crois pas, je l'ai fait, je peux le faire, ça me coûte rien comme effort. Le plus compliqué, c'est ni dire, ni faire. Le plus compliqué, c'est Bilvafra, c'est dans ton cœur. On te dit, tu dois le sentir, et il faut que ça te prenne dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il dit, mais qui carove les rats d'avoir meurtre? Mais c'est facile. Quoi, c'est facile? Non, c'est pas facile. À qui il parle, Moshe Rabbeinu, quand il dit que c'est facile? D'ailleurs, comme on va voir, la Gemara pose la question, dans le traité Brachot, elle pose la question, elle dit, mais pas du tout, c'est pas facile. Pas facile. C'est quoi cette histoire-là? Et Moshe Rabbeinu, il dit, oui, c'est facile. Non, c'est pas facile. Comme il dit ici. Accessible.
Proche.
Très bien. Alors, c'est ce qu'on va expliquer. A priori, quand on dit Karov, ça veut dire que c'est proche. Quand on dit c'est proche, ça veut dire que c'est accessible. Ça veut dire que, ça y est, j'y arrive. C'est faux. Il y a des gens qui, toute leur vie, n'ont jamais eu un sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont fait les prières avec leur bouche, ce qu'il fallait faire. Ils ont fait avec l'action ce qu'il fallait faire. Mais ressentir, c'est très compliqué. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes. Si on prendrait, d'accord, sur toutes les mitzvot qu'on fait en une année entière, depuis le début jusqu'à la fin de l'année, sur toute la masse des mitzvot qu'on fait, combien de mitzvot on ressent vraiment? Tu ressens vraiment l'importance de la mitzvot que tu fais, tu viens à la synagogue Shabbat et tu ressens que c'est pour le kavod et la kedusha de Shabbat, tu viens au repas de Shabbat, tu sens que tu fais ça pour le kavod de Shabbat, pas pour ton ventre. Honnêtement. Une question sérieuse que je vous pose, d'accord? Prends la masse de toutes les mitzvot que tu fais dans l'année et pose-toi la question, combien de mitzvot on le fait avec Kavana? Si vous arrivez à deux chiffres, c'est déjà énorme. Moi, à mon avis, ça reste un chiffre. Et encore. C'est sûr. Donc, et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Kikarov Elecha. Il dit, mais c'est facile. C'est rien du tout. Quoi, c'est rien du tout? C'est pas rien du tout. Alors, peut-être, on aurait pu répondre que bon, Moshe Rabbeinu, il parlait aux gens de sa génération. La génération du désert, elle est qualifiée dans la Gemara de Dordéa. C'était une génération de connaisseurs. Une génération qui avait la connaissance de Dieu. Ça veut dire, on dit que, comme ils devaient développer la Torah, le plus gros de la Torah a été développé par eux, en tout cas une grande partie. Donc on dit que c'était Dordéa, c'était une génération qui était d'une grande connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucun frein pour l'étude. Parce qu'ils avaient tout ce qu'il faut, ils avaient la parnassa, d'accord? Ils avaient les vêtements, il n'y a rien qui te dérange. Il n'y a rien. À part les problèmes de Shalom Bayit, peut-être, s'il y en avait. Mais à part ça, il n'y a rien qui peut déranger, rien, rien du tout. Il n'y a rien. Donc, puisqu'il n'y a rien qui te dérange, ça veut dire, imagine-toi, tu vois, c'est pas que tu arrêtes la yeshiva à 20 ans. Jusqu'à la mort, il y a la yeshiva. Parce qu'il n'y a pas de raison de quitter la yeshiva. Donc, c'était une génération qui était d'ordéa. Alors, peut-être on peut répondre, on peut dire que bon, quand Moshe Rabbeinu, dans la parasha Nitzavim, il s'est adressé au peuple, et il leur a dit que sachez que c'est accessible pour vous, dans la pensée, la parole et l'action, peut-être qu'il parlait à eux. Eux, cette génération, effectivement, pour eux, comme ils vivent et qu'ils baignent dedans tout le temps, peut-être pour eux c'est facile. Mais nous, que c'est pas le cas. Que si déjà on arrive à baigner quelques années dans l'étude, c'est déjà un exploit, et plus forte raison que la plupart de la vie ne passera pas dans ça, peut-être que nous on n'est pas concernés par ça. La Gemara Zaken tout de suite va enlever ça. Il va dire non, dans les mots. Délire ora, ou bilvafra negedachou shelanu. A priori, quand tu me dis que bilvafra, ça veut dire aimer Dieu dans son cœur, c'est quelque chose de facile, il dit c'est faux. Negedachou shelanu, c'est contre ce qu'on ressent. Parce qu'on ressent clairement que c'est faux. Alors, et tout de suite, il n'accepte pas la réponse qui dit que ça s'appliquait seulement pour l'époque de Moshe Rabbeinu, parce que Vehat Torah hi nitrit. La Torah est éternelle. Il faut comprendre que tout ce qui a été écrit dans la Torah, c'est éternel. Parce que sinon, si tu commences à dire c'est écrit pour la génération de l'époque, alors tu vas commencer à dire oui, Moshe Rabbeinu il a interdit de profaner le Shabbat, mais ça c'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, le feu c'était compliqué d'allumer. Mais aujourd'hui c'est pas compliqué, on peut le faire. C'est-à-dire si tu rentres dans ce jeu-là, d'accord ? Si tu rentres dans ce jeu-là, tu t'en sors pas. On peut pas rentrer dans ce jeu-là. On doit partir de la base que la Torah est éternelle. Donc si la Torah est éternelle, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est éternel. Ça veut dire que ce qui est écrit dans la Torah, ça s'est appliqué, ça fait 3000 ans, ça peut s'appliquer aujourd'hui sans aucun problème. Donc je repose la question, comment on peut dire, comment Moshe Rabbeinu peut s'adresser au peuple, et comment il peut leur dire, mais vous inquiétez pas, c'est facile, aimer Dieu c'est facile, c'est Kikarov, c'est facile, c'est accessible, comment il peut leur dire ça? Dire des paroles, c'est facile, faire quelque chose, c'est facile, mais sentir, non c'est pas facile. Ça veut dire, je vais donner un exemple, je vais être un petit peu cru. Par exemple, on va dire par exemple à quelqu'un, il faut que tu aimes ta femme. Bon, il peut dire à sa femme qu'il aime. D'accord ? Il peut faire des gestes qui lui montrent qu'il aime. Il va acheter un bouquet de fleurs. Mais pour l'aimer, c'est plus compliqué. C'est ça le plus compliqué. Je vais vous dire plus que ça. On va expliquer dans la suite que c'est plus compliqué d'aimer quelqu'un que de le craindre. Parce que le craindre, c'est bon, t'as la distance. Mais aimer quelqu'un, c'est un sentiment très profond qui doit venir de toi. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu ? Il dit, mais qui carove ? C'est facile. Non, c'est pas facile. Et la Torah est éternelle, donc on ne comprend pas ce que Moshe Rabbeinu dit. Donc, en karov me'od adavar, c'est pas facile. Les affaires libo mitavat ou alamazé les avat hashem behemet. Est-ce que vous croyez que c'est facile de transformer son cœur, de passer des plaisirs de ce monde-ci à aimer Hashem vraiment, pas dire que j'aime Hashem, pas faire comme si que j'aime Hashem, aimer Hashem vraiment, c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est évident que c'est pas facile. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu dit que c'est facile? Comment Hashem rovik mara? Comme la Gemara a dit, atu yira miltasutrati. La Gemara pose la question. Elle dit, est-ce que craindre Dieu c'est une petite chose? D'accord? Donc c'est pas une petite chose. D'ailleurs, en passant, quand on arrivera au chapitre 42, la Gemara répond, c'est très intéressant ce que dit la Gemara là-bas. La Gemara pose la question, elle dit, mais est-ce que craindre Dieu c'est une petite chose? Et qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit, oui, pour Moshe c'est une petite chose. C'est quoi la réponse?
Pour Moshe,
oui. Moshe il nous parle, tu vois, il te parle à toi, il te parle à chacun de nous. Il dit, maintenant qu'est-ce qu'on vous demande? C'est rien, il faut juste aimer et craindre Dieu. La Gemara elle dit, mais aimer, est-ce que craindre Dieu c'est une petite chose? Et moi, je dis oui, pour Moshe, c'est une petite chose. Oui, d'accord, pour Moshe, d'accord. Mais il nous parle à nous maintenant. Moi maintenant, monsieur qui est là maintenant, autour de cette table. Non, c'est pas facile pour moi. Qu'est-ce qui vient, Moshe Rabbeinu, me dire qui karov et l'echad avar meod? Maintenant, on aurait pu répondre. On aurait pu répondre que peut-être Moshe Rabbeinu ne connaît pas son peuple. Ça arrive des fois. D'accord? Je parle pas des tzadikim. Ça arrive des fois qu'il y a des gens, des dirigeants qui connaissent pas leur peuple. Ça veut dire qu'ils surestiment leur peuple. Peut-être que Moshe Rabbeinu nous surestime. Et que quand ils nous voient faire des filottes comme ça toute la journée, ils croient qu'au fond de nous, on baigne dedans, on est dedans à fond, à 100%. Sauf que Moshe Rabbeinu, c'est pas monsieur tout le monde. Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik. Moshe Rabbeinu, le Ramban, Narpanit, il dit que Moshe Rabbeinu, il avait la force chez Yodéa, la Lort Neged Rucho, chez Kolechat Ve'echad. Je traduis, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait la force d'être capable de comprendre l'esprit de chaque personne du Ham Israël. C'est-à-dire que si tu venais le voir, il comprenait ton esprit, il comprenait ce que tu avais à l'intérieur. À tel point, on dit que quand on voyait Moshe Rabbeinu, on devait faire une bracha. Quelle bracha? On devait faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Chacham Harazim. Béni sois-tu Hashem, celui qui est le Chacham, qui connaît les secrets qu'il y a dans les cœurs de tout le monde. Parce qu'on dit, regarde, si déjà un homme comme Moshe Rabbeinu, il est capable de comprendre les secrets qu'il y a dans le cœur des 600 000 personnes qui sont ici, alors imagine-toi, Dieu, à quel point il sait beaucoup plus fort que ça. Mais ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait une force qu'il était capable de comprendre ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Donc évidemment que Moshe Rabbeinu, il savait ce qu'il y avait au fond de nous. Et il savait regarder ce qu'il y a derrière notre façade. Donc je repose la même question. Si Moshe Rabbeinu, il sait ce qu'il y a regardé derrière notre façade, probablement que le Yetzara qu'on a aujourd'hui, il existait aussi à l'époque. Il a probablement pas évolué, d'accord? C'est le même Yetzara, on a les mêmes problèmes. Donc je repose la question. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu dit que aimer et craindre Dieu, c'est facile? Non, c'est pas facile. Comme a dit Abraham. En réalité, le piège, c'est qu'on a mal compris. On a mal traduit le pasouk. On a traduit Karov par facile. On a dit c'est facile. Mais Karov en hébreu, ça veut pas dire facile. Karov, ça veut dire proche. Quelle est la différence entre proche et facile? Quand, par exemple, d'accord, je dis à quelqu'un, hein, quelqu'un me demande, il me dit telle rue. Je lui dis, c'est tout proche. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Proche, ça veut pas dire que c'est facile. Accessible. Proche, ça veut dire que c'est accessible. Par exemple, quelqu'un qui est, d'accord, qui est à quelques mètres en haut d'une montagne, il faut qu'il grimpe encore, c'est proche. Mais est-ce que ça veut dire que c'est facile pour arriver en haut? Non, c'est pas facile. Ça veut dire, quand on dit à quelqu'un que c'est proche, ça veut pas dire que ça va être facile. Ça veut dire qu'il peut le faire. Pourquoi, d'où on sait qu'il peut le faire? D'où on sait qu'il peut le faire? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Parce qu'en vérité, comme on va reprendre ce qu'on a dit dans le chapitre dernier que j'ai dit en résumé au début du cours, comme chacun de nous, au fond, il a une nature qu'il aime à Kadosh Baruch Hu, Donc en vérité, c'est vrai que moi, quand je vois tout ça, je m'angoisse et je me dis, mais jamais je vais réussir à aimer Dieu, jamais je vais réussir à craindre Dieu. Moshe Rabbeinu te rassure. Il te dit, ne crois pas que tu vas réinventer la roue, tu as déjà ça en toi. Tu dois juste faire un effort pour développer ce que tu as déjà en toi. Donc voilà pourquoi je te dis, Kikarov, c'est accessible. J'ai pas dit que c'est facile. J'ai pas dit que ça va venir tout seul, j'ai pas dit ça. Mais sache que c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose que tu peux atteindre parce que tu l'as déjà en toi. Et tu vas voir que tu vas essayer, et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Comme on l'a dit tout à l'heure dans l'exemple que le rabbi a dit, qu'on voit que quand une personne a un don en lui, et ben quand il commence à faire quelques cours, tout de suite ça décolle. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'il pensait. Donc c'est ça ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire ici.
D'ailleurs, après, dans la suite de la paracha, il va expliciter.
Oui.
Dans l'eau, mais vers la yam.
Oui, bien sûr. Et il est très clair. Mais ça veut dire que nous, on a compris Karov dans le sens proche. Ça veut dire facile. Non, personne n'a dit que c'est facile. C'est pas facile. Seulement, Moshe Rabbeinu, il nous rassure. Le rôle d'un dirigeant, c'est de nous rassurer. Comment il nous rassure? Il nous rassure parce qu'on est angoissé, Chaim. Chaim.
Ah, j'attends que ça va.
Et là, David. Hein? Marcel, t'as oublié le Cohen?
Voilà. Regardez.
Non, mais le Cohen. Il y a deux verres.
Bon, là,
bien joué. Ça, par contre, tout ça. Il préfère
d'Aphélix. Tiens, Cohen. Prends-le de maman.
Ah, oui. Le Chaim. Moi, t'es servi?
Merci.
Marcel, et toi tu dis pas, toi juste tu sers.
Moi je sers, c'est tout.
Marcel, t'as oublié deux personnes.
Qui l'a oublié?
Non, il m'a dit non.
Ah,
nice. Allô, David.
Ah, je reprends. On a dit que Moshe Rabbeinu, le rôle de Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu il est venu nous dire dans la Parasha Nitzavim, il est venu nous dire que Kikarov Elecha Davar Me'od Befirov Vavra La Soto, que c'est accessible pour toi. C'est parce que Moshe Rabbeinu veut nous rassurer. Vous savez, en passant, Rav Azimov Zichronel Vracha, cette semaine, ça va être Shloshim. Il nous avait dit une fois, il nous avait fait un cours sur l'éducation. Et il nous avait dit que la raison pour laquelle le Rabbi a instauré les 12 psukim, vous savez, aux enfants, on leur fait répéter 12 psukim, 12 versets de Torah. Il a dit parce que dans ces 12 versets de Torah, il y a des messages très importants pour les enfants, qu'un enfant doit comprendre, pas seulement répéter, mais il doit les comprendre. Et un des 12 psukim, c'est quoi? C'est Kikarov Elecha Adavar Me'od, Befichov Vavra La Soto. C'est ce passage qu'on est en train de lire ici. C'est le passage qui te dit que sache que c'est accessible pour toi, que tu peux le dire, tu peux le faire et tu peux le penser. Et c'est important de dire ça même à un enfant. Qu'un enfant, dès le plus jeune âge, il faut que ça rentre dans sa tête, que c'est pas la lune à découvrir, il peut le faire. Et ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est le rôle de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik de sa génération. Il faut comprendre, voilà, je reviens chez le Rabbi Baruch Hashem. Le rôle d'un tzaddik, les gens ils pensent qu'un tzaddik, je sais pas pourquoi il est là, les gens ils pensent qu'un tzaddik il est là pour faire des miracles. Les gens ils pensent qu'un tzaddik, on va chez un rabbi pour faire des miracles. Moi je pense que c'est une erreur. Moi je pense que le rôle numéro un d'un tzaddik, c'est pas de faire des miracles. C'est même pas d'enseigner la Torah. Il y a des rabbanim pour ça. S'il faut, il enseignera aussi la Torah, mais c'est pas ça son rôle principal. Son rôle principal, c'est d'aider les gens à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si une personne, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il a un frein parce qu'il a quelqu'un qui est malade dans sa famille, alors il va l'avoir le tzaddik, il va le donner. C'est un moyen tout ça. Attends juste une seconde. Ça veut dire que un tzaddik, c'est comme Moshe Rabbeinu, comme ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ici. Moshe Rabbeinu nous enseignait la Torah pour nous aider à nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il est là pour nous rassurer. Il voit qu'on est angoissé, qu'il va partir. Il est là comme un tzaddik, il nous rassure. Il te dit, t'inquiète pas, tu peux le faire, d'accord? Yes, you can, hein, comme, d'accord? Il va te rassurer. Il te dit, tu peux le faire. Tu as ça en toi. Ne crois pas que c'est compliqué. C'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Et Moshe Rabbeinu, il est parfaitement dans son rôle. En étant en train de nous encourager, en nous disant, tu as déjà ça en toi, donc tu peux le faire. Vas-y, Serge.
Mais excuse-moi, je vais te dire une question.
Vas-y.
Ça veut dire quoi, se rapprocher de l'autre?
Se rapprocher de la Kadosh Baruch, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que ma Neshama, en vérité, elle est déjà proche de la Kadosh Baruch. Mais avec le temps, avec les bêtises qu'on fait, on prend la distance. Avec notre corps, on prend la distance de la Kadosh Baruch. Et on a du mal à le ressentir dans notre vie. Oui. Le tzaddik, son rôle, c'est le t'aider à te rapprocher de Dieu. Ça veut dire à ressentir plus le divin, à ressentir plus une mitzvah, à faire des mitzvot. D'accord ? Ça, c'est son rôle. Maintenant, le tzaddik, comment il va t'encourager ? Il peut utiliser plein de moyens. Il peut utiliser un encouragement, il peut utiliser un dvar Torah, il peut te donner un dollar, d'accord, pour que tu prennes un objet dans le tzaddik dans la main. Ça, c'est les moyens, ça, que le tzaddik va utiliser. Mais à la limite, le moyen ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est que si le tzaddik va arriver à un but, que la personne, quand il a quitté le tzaddik, quand il a quitté la porte du tzaddik, cette personne-là, il a avancé dans le Torah mitzvot, le tzaddik peut faire check, la personne a avancé, c'est ce qu'il voulait. Ça veut dire, on ne va pas chez un tzaddik pour demander des brachot. Bien sûr qu'on demande aussi des brachot. Parce que comme ça nous bloque, alors on demande une bracha. Mais le rôle d'un tzaddik, ce n'est pas un faiseur de miracles. Ce n'est pas ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est surtout un tzaddik de la génération. C'est comme Moshe Rabbeinu, il t'aide à t'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Exactement comme ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ici. Il est là pour rassurer le peuple. Comme le rôle d'un dirigeant. Un dirigeant, il est là pour rassurer le peuple. Pour leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il est là pour les rassurer, comme Moshe Rabbeinu ici. Il leur dit, vous inquiétez pas, vous avez ça en vous, vous pouvez le faire. Donc c'est ce qu'il dit ici. Oui.
Deux questions. Le fait qu'ils disent de le dire, de le faire et de le penser,
oui.
Est-ce que ça c'est un ordre de difficulté? Est-ce que ça se suit? Ça veut dire le premier niveau c'est de le dire, après de le faire, de le penser. Et après, ma deuxième question c'est est-ce que c'est peut-être un plan? On va dire de le dire, ça va nous amener à le faire, et le faire, ça va nous amener à le penser.
Non, ça veut dire c'est dans l'ordre inverse. C'est d'abord tu en parles, comme un projet. D'accord. D'abord, tu en parles. Et quand tu en parles, plus tu le ressens. À force d'en parler, tu le ressens. Et après, une fois que tu le ressens, tu passes à l'action.
D'accord. Donc en fait,
c'est comme ça que ça marche dans la vie en général. Quand une personne a un projet, il a une idée. Au début, c'est une idée qui est très vague. Mais pas, c'est la même chose. Quand une personne a une idée qui est très vague, une idée, il en parle. Plus il en parle, plus il la sent.
Non, plus il va vouloir la faire.
Voilà.
Et après le faire, peut-être. Il peut penser ce que non. Ce qu'il fait, c'est bon ou pas.
Ça, le faire, c'est en dernier. Mais tu as raison, que des fois, on va commencer par l'action. Mais ça, c'est un autre thème. Là, maintenant, juste, je voulais expliquer le fait que quand Moshe Rabbeinu nous dit que c'est accessible, c'est vraiment la suite de ce qu'on a expliqué la dernière fois. Qu'on a ça en nous. Et avec ça, il explique le pasouk de Moshe Rabbeinu qui karov elecha et qui te dit, sache que tu peux le faire, c'est accessible. Vegam avru rabotenu zichonam livracha. C'est pareil pour
la vera. C'est le même chemin. C'est la pensée.
Toujours.
Donc c'est dans les deux sens, c'est comme du bon côté ou du mauvais côté.
Oui, mais il a raison que là, le pasouk, il n'a pas dit pensée, parole, action. Il a dit dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire. Il a commencé par la parole. Parce que quand on sert Dieu, très souvent, ça commence par la parole, après on le ressent et après on fait. Regarde, par exemple, je vais donner un exemple. Je demandais à quelqu'un de faire une bracha. Une bénédiction. D'accord ? Au début, il ne comprend pas la bénédiction. Mais il l'a dit. Après, à force de la dire, il va se dire, qu'est-ce que je raconte là, ici ? Donc, il va commencer à la sentir. Et après, ça va faire en sorte qu'il va avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Non, mais ce n'est pas forcément cet ordre-là. Ça, on va voir plus tard. Donc, Vegamaru Rabotenu Zichronam Livracha. Je suis à la page, d'accord, en bas de la page 225. Les Rachamim m'ont dit, des tzadikim dav kalibam birshutam. Il n'y a que les tzadikim qui peuvent dire, qui maîtrisent parfaitement leur cœur. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas les tzadikim. Et là seulement, de Bela Sador et Sonoloma, Ahava, Amevia, l'idée Asiat, Amizod Ilvach, Ireuta, Delibach et Betalumotlev, Gamki, Ena, Bidgalut, Libo, Kirishvesh. Voilà ce qu'il explique ici. Tu dis comme ça. Tu dis, et ça c'est très important ce qu'il dit ici. Quand on te dit que tu dois aimer Akadosh Baruch Hu, ne t'attends pas à ce que quand on dit que tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, c'est comme tu vas aimer une femme. Bien que ça serait bien que ce soit comme ça. Un tzadik, il aime Dieu comme il aime une femme. Ça veut dire qu'il aime, il vibre Akadosh Baruch Hu. Il te dit, on aimerait aimer être comme ça, mais on sait très bien qu'on n'est pas à ce niveau-là. Alors c'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu ? C'est l'aimer d'une manière assez forte pour que ça te pousse à faire quelque chose pour lui. Je vais expliquer ce que je veux dire, puisqu'on a donné l'exemple d'une femme. Il y a plusieurs niveaux d'amour. Il y a un niveau d'amour qu'au fond de moi, je sens un amour vague, qui est assez puissant pour me pousser à faire quelque chose pour la personne. Maintenant, est-ce que je peux dire que je vibre, que je ressens, que je tremble ? Non, j'ai pas ça. Mais pourtant, je sens quelque chose qui me pousse à faire quelque chose. Qui me pousse à faire quelque chose pour la personne. C'est comme ça que nous on est par rapport à Akadosh Baruch Hu. Nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on a ce qu'on appelle, retenez ce terme, Ahava Mesuteret. Un amour caché. D'accord ? Un amour caché, c'est pas un admirateur secret. Un amour caché, ça veut dire que c'est au fond de nous, on a un petit amour au fond de nous qui est caché, mais qui est là. Et c'est ce qui fait que cet amour, il est assez fort pour te pousser à faire une mitzvah et pour t'aider à faire la mitzvah. Plus que ça, tu peux pas lui demander. C'est-à-dire, ne vous attendez pas qu'un jour, on va vibrer à Kadosh Baruch Hu, on va sentir à Kadosh Baruch Hu à 100%. Peut-être ça arrivera pas. Mais c'est pas un but. Ce qui compte, c'est de développer l'amour de manière assez forte pour m'aider à faire la mitzvah. Salad Morazakin dit, Vedavarze, Karov Meot Venakel Echoladam. Cette chose-là qu'on vient de dire, ça veut dire développer l'amour intérieur qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, le petit amour caché pour servir Akadosh Baruch Hu, d'accord, pour faire les mitzvot, ça c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'a pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un juif sur terre qui peut dire que ça je ne peux pas le faire. Il n'y a pas. Ça n'existe pas possible. N'importe quel juif au monde, même s'il est très 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 loin, même s'il n'est pas venu rien du tout, dès qu'on lui explique qui il est, on lui explique qu'il est juif, l'amour caché qu'il va avoir en lui, ce petit amour qu'il va avoir au fond de lui, est assez suffisant pour l'aider à faire les mitzvot et pour l'aider à casser son yetzara pour faire les mitzvot. Ça ne veut pas dire que son yetzara l'embêtera plus, mais en tout cas, ça l'aidera à faire les mitzvot. Comme on a dit, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Beaucoup plus facile que ça en a l'air. Et en fait, le piège du yetzara, c'est de nous faire croire que la chose est beaucoup plus dure qu'elle en a l'air. Alors qu'en vérité, elle est beaucoup plus facile qu'elle en a l'air. Ça, c'est son piège, le yetzara. Il te fait croire que tu prends une décision, attention, pas possible, c'est impossible, jamais j'y arriverai. Par exemple, j'en ai un exemple. Par exemple, j'ai parlé, ça fait quelques temps à une personne. Je lui ai dit, il faut répéter un mot de Torah à la table de Shabbat. Ouais, je lui ai dit, d'accord ? Il part que autour de la table. Je lui ai dit, il faut répéter un mot de Torah à la table de Shabbat. Ça avait l'air d'un monde. Il m'a dit, non, jamais j'y arriverai, c'est pas possible. Une minute, rien du tout, juste tu répètes un mot de Torah. Il n'arrivait pas. Et après, à la fin, quand il a réussi, il m'a dit, mais c'est rien du tout en vérité. Et c'est vrai, Bémet, quand tu prends du recul, tu dis, mais qu'est-ce que c'est répéter une minute? On parle tellement d'heures dans la journée, c'est compliqué de répéter une minute de Torah. Mais le Yitzhara, il te fait croire que c'est un monde. Comment ils vont me parler? Comment ils vont me regarder? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais m'embrouiller? Est-ce qu'ils vont pas me regarder comme ci? Est-ce qu'on va me regarder comme ça? C'est rien du tout. Et c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça, que le Yitzhara, il nous fait croire que c'est gros, alors qu'en vérité, c'est tout petit. C'est pas que c'est tout petit, c'est que j'ai la force de le faire et je peux le faire facilement. Kimocho birshuto viachol leit bonen bo kechol asher yarpots. Alors tout à l'heure Jackie a posé la question, il a dit il y a beaucoup de philosophie, d'accord, beaucoup de philosophie dans le Tania. En fait, la philosophie, je l'ai dit qu'on allait en parler aujourd'hui. La philosophie dans le Tania, c'est un facteur très important puisque on est dans la chassidoute Chabad. Chabad, rappelez-vous, c'est les initiales de Chochma Bina Daat. Ça veut dire que selon le Tania, selon la Morazaken, en vérité, tout passe par la réflexion. Quand une personne fait quelque chose, il doit d'abord l'avoir fait dans sa tête, avant de le faire. Et quand dans ta tête, tu l'as déjà fait, quand la démarche a déjà été faite dans ta tête, après, automatiquement, c'est du gâteau. Donc, c'est ce qu'il dit ici. On s'adresse à une personne. Il dit, je ne ressens rien du tout envers un Kadosh Baruch Hu. Il dit, bien sûr, tu ne ressens rien, parce que tu n'as pas fait la démarche dans ta tête. Fais une démarche de réflexion dans ta tête. Une démarche basique. Même vraiment basique de chez basique. Réfléchis. Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ta vie? Mais juste basique de chez basique. Et tu vas voir qu'avec, en réfléchissant juste quelques secondes, tu vas voir que tu vas commencer à ressentir un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, c'est ça ce qu'on appelle l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu le fais, tu viens de faire une mitzvah positive qui te dit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem. Maintenant, après, bien sûr, on peut essayer d'aller encore plus fort, mais t'as déjà fait la mitzvah. Donc c'est pour ça que quand mon cher Benoît parle, c'est pas du pipo ce qu'il raconte. Il te dit, tu peux le faire. C'est en toi. Il suffit juste de réfléchir un peu à Kadosh Baruch Hu et tu peux le faire. Voilà pourquoi dans la chassidoute Chabad, on insiste beaucoup sur la réflexion parce que tout passe par la réflexion. Même, t'as bien fait de remarquer tout à l'heure, même une avéra, avant de la faire dans l'action, elle est passée où la avéra? Dans la tête. Ça veut dire que, avant de faire la avéra avec mon corps, j'ai déjà fait la avéra depuis longtemps dans ma tête. Et quand j'ai fait la avéra avec mon corps, c'était seulement pour matérialiser une avéra que j'avais déjà fait dans ma tête. C'est une réalité ce que je vous dis. C'est dans ma tête, la avéra, elle était déjà faite depuis très longtemps. Seulement, je l'avais pas encore faite concrètement. Donc tout est dans la tête. C'est la même chose pour aimer Akadosh Baruch Hu. Tu veux aimer Akadosh Baruch Hu, tout est dans la tête. Quand dans ta tête t'as fait une démarche de teshuvah, quand dans ta tête t'as fait une démarche que tu as réfléchi qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu représente pour toi, automatiquement tu vas voir que c'est du gâteau, c'est facile. Voilà ce que Moshe Rabbeinu voulait dire quand il a dit Kikarov Elecha, que la chose est accessible pour toi. Ce qu'il dit ici. Ukshayit bonen bo, j'accélère un peu parce que j'explique à l'oral beaucoup. Ukshayit bonen bo bigdulat ensof baruch hu. Lorsqu'une personne, quelle page en est? Michael, tu nous donnes les pages. Alors. 227. Lorsqu'une personne va réfléchir à la grandeur, non, au milieu, oui, 227, c'est ça. Il a raison. Ukshayit bonen bo bigdulat ensof baruch hu. Lorsque la personne va réfléchir à la grandeur de Dieu, mimeila automatiquement, yolid bemocho al kol panim, ahava l'Hashem le dof kavu bekiyum mitzvotav v'torato, automatiquement, la personne pourra faire générer dans son esprit au moins l'amour à Dieu qui sera suffisant pour faire les mitzvot avec la ferveur. Vezekola Adam. Et ça, c'est tout l'homme. Ça veut dire que le but d'un homme sur terre, c'est quoi? C'est de pouvoir maîtriser son cerveau pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a trois choses qu'on maîtrise. Vous vous rappelez, c'est quoi les trois choses qu'on maîtrise? Il n'y a que trois choses qu'on maîtrise dans notre corps. Trois choses. C'est quoi les trois? Jackie, on va voir si Jackie se rappelle. Il n'y a que trois choses qu'on maîtrise. Rien d'autre. Trois choses. Qui se rappelle? C'est quoi les trois choses qu'un homme maîtrise? Ça fait longtemps qu'on a étudié, ça fait plusieurs mois. Trois choses. La pensée, la parole, l'action. C'est les trois seules choses qu'on maîtrise. Je maîtrise ce que je vais faire. D'accord? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui m'a embêté, est-ce que je vais lui décoller une droite ou pas? Je maîtrise ce que je vais dire. D'accord? Je peux toujours maîtriser.
C'est la colère, je ne maîtrise pas.
Bien sûr que je maîtrise. Je peux maîtriser. Non, je ne peux pas maîtriser le fait que je suis en colère, mais je peux maîtriser de retenir ma main. Je peux maîtriser. Non, je peux maîtriser de retenir ma main. Si quelqu'un il m'a énervé, je ne peux pas maîtriser le fait que ça ne m'énerve pas, parce que ça, c'est un sentiment. J'ai bien dit. On ne maîtrise pas les sentiments. On maîtrise la pensée, la parole, l'action. C'est les trois seules choses. La pensée, je maîtrise ce que je pense. C'est-à-dire, je peux décider de penser à autre chose. Personne ne peut décider à ma place à quoi je pensais. Même si une pensée est venue dans ma tête, d'accord? Même si une pensée est venue dans ma tête, je peux décider de penser à autre chose. D'accord? Je ne décide pas quand la pensée vient, mais je décide à quoi je pense. C'est moi qui décide. Personne ne peut décider à ma place. Sinon, c'est que je suis malade.
Donc
la pensée, j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut dire que je ne maîtrise pas, est-ce qu'on peut dire que je ne peux pas maîtriser ma pensée? Je peux la maîtriser. Je peux tout le temps la maîtriser. Ça n'existe pas que je maîtrise pas ma pensée. Maintenant, je peux me laisser aller, et c'est ce qui se passe très souvent. Mais je peux maîtriser ma pensée.
Tu peux y arriver.
Je veux te dire, c'est très simple. Marcel, c'est très simple. Moshe Rabbeinu, s'il a pris ces trois exemples-là, c'est pas par hasard. La pensée, la parole, l'action. Parce que c'est les trois seules choses sur lesquelles un homme a le libre arbitre.
Mais c'est les conséquences de chaque.
C'est les trois seules choses. Sur tout le reste, j'ai pas de libre arbitre. J'ai pas de libre arbitre. Est-ce que je serai coléreux ou pas? Est-ce que je serai généreux ou pas? Est-ce que je serai rigoureux ou pas? Je peux pas maîtriser ça. Je peux apprendre à vivre avec, mais j'ai pas de libre arbitre sur ça. Par contre, à quoi je vais penser? Ça, c'est moi qui décide. Je peux penser à autre chose. Je peux décider d'arrêter à penser à quelque chose en pensant à autre chose. D'accord? C'est moi qui décide aussi ce que je vais dire. Même si j'ai envie grave de dire quelque chose à quelqu'un, eh ben, c'est moi qui décide est-ce que je vais lui dire ou pas. Maintenant, même si j'ai grave envie de lui dire. D'accord? D'accord? Et de la même manière, je maîtrise ce que je vais faire. D'accord? Maintenant. Et là, maintenant, je voulais arriver à un point très important. Plus c'est profond, et plus c'est difficile à maîtriser. Ça veut dire. Me retenir d'agir, c'est relativement facile. Me retenir de parler, c'est plus difficile. Quelqu'un parle et t'as énervé, c'est très difficile de te retenir, de lui dire quelque chose. Te retenir de penser, c'est très 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 compliqué. Mais c'est possible. Quelqu'un il t'a embêté par exemple, tu dis attends, ni je lève ma main, ni je parle, ni je pense. Alors quoi? Et je pense rien comme si de rien n'était?
Ah, tu penses.
C'est pas possible. Eh ben oui, si tu veux, tu peux le faire. C'est très dur, mais tu peux le faire. Parce que c'est trois seules choses qu'un homme maîtrise. Et je vais vous dire quelque chose de très simple. Si une de ces trois choses-là, on ne maîtrisait pas, tu as bien fait de remarquer que ces trois choses-là, en vérité, forment un tout. Parce que, peu importe le sens, si on manquait à maîtriser une de ces trois choses-là, le libre-arbitre n'existerait pas. Le concept de libre-arbitre ne pourrait pas exister. Pour dire que j'ai un libre-arbitre, je dois être capable de maîtriser sur toute la chaîne ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Sinon, le libre-arbitre n'existe pas à 100%. Et si le libre-arbitre n'existe pas à 100%, on ne peut pas me punir pour les bêtises que je fais et on ne peut pas me récompenser pour les bienfaits que je fais. C'est la base.
Vrai, même si tu maîtrises, on sait très bien ce que tu vas dire.
Très bien. Il n'y a pas de problème. Mais je peux maîtriser. Personne n'a dit que c'est facile. C'est ça ce qu'il dit aujourd'hui.
Non, mais c'est-à-dire, le libre-arbitre, c'est l'éternel problème du libre-arbitre. C'est-à-dire que même si tu te maîtrises, Dieu savait que tu te maîtriserais.
D'accord.
Ça va, mais tu t'es maîtrisé quand même.
Je t'ai maîtrisé. Tu aurais pu ne pas te maîtriser, tu t'es maîtrisé, tu as décidé de te maîtriser.
C'était de toute façon décidé que je me maîtriserais.
Peu importe, c'est une autre question ça. Mais tu aurais pu ne pas te maîtriser, tu t'es maîtrisé. C'est pour ça que Dieu va me récompenser. C'est pour ça que l'Admor HaZaken il te dit, c'est pour ça que...
Ne pas me maîtriser.
Bien sûr.
Prévu que je me maîtrise.
Non, je peux faire. C'est un autre thème, ça. Je ne vais pas rentrer dedans. Ça veut dire que, en tout cas, c'est pas par hasard si Moshe Rabbeinu a parlé de ces trois choses-là, la pensée, la parole et l'action, parce que c'est les trois seules choses qu'on maîtrise. D'accord? Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. C'est les trois seules choses que je maîtrise. Toutes les autres choses, je maîtrise rien du tout. Les sentiments que j'ai. Est-ce que je maîtrise les sentiments que j'ai, par exemple?
Non.
Je maîtrise pas. Je peux maîtriser de ne pas réfléchir à des choses pas bien. Mais est-ce que je peux maîtriser, par exemple, que j'ai été attiré par quelque chose et que je ne suis pas attiré par quelque chose d'autre? Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai lu un. Il y a un rav très connu en Israël qui s'appelle le rav Simcha Cohen. Ce rav Simcha Cohen, écoutez, c'est une question intéressante. Ce rav Simcha Cohen, tu entends ? Ce rav Simcha Cohen est un rav qui est spécialisé dans le Shalom Bayit. Et ce rav, il a écrit plusieurs livres sur ça, comme le livre Bayit Ayudi, des livres qui sont très très connus. Et ce rav Simcha Cohen, c'est un rav israélien.
C'est lui qui a fondé le parti ? Non, rien à voir.
Non, rien à voir avec le parti. Bayit Ayudi, c'est le nom de son livre. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'il a écrit ce livre. Et ce rave-là, il avait un coin dans un journal, d'accord ? Chaque semaine, il se faisait interviewer, on lui posait une question. Une question sur Shalom Bayit, il répondait. Une chronique. C'est pas une chronique, c'est une question. C'est-à-dire qu'il y avait un lecteur, il y avait les lecteurs qui envoyaient les questions, et chaque semaine, il répondait à une question. Je sais plus dans quel journal c'était, mais je me rappelle quand j'étais en Israël. Une fois, une des questions qu'on lui a posées, une personne qui a posé la question suivante, c'est une question intéressante. Il dit, d'accord, il pose une question, il lui dit, est-ce que c'est possible que quand je me suis marié, j'ai pas vu un défaut que ma femme avait? Et maintenant, je me suis marié, j'ai découvert un défaut qu'elle avait. Attendez, écoutez la question.
Un seul.
Est-ce que c'est possible?
Un seul.
Tu veux pas lui passer des lunettes?
J'ai changé les lunettes, c'est un seul.
Tu vois, t'avais pas vu le défaut. Alors. Écoutez la question qu'il a posée au Rav. Alors, il a posé la question comme ça au Rav. Il a dit, j'ai découvert un défaut chez ma femme après le mariage. Maintenant, je me dis que peut-être que si j'avais découvert ce défaut avant le mariage, peut-être que je me serais pas marié avec elle.
Ouais.
Alors, est-ce que je suis passé à côté de mon mazal? Est-ce que j'ai mal regardé? Est-ce que j'ai pas assez bien regardé? Peut-être que j'aurais dû mieux regarder et que c'est de ma faute? Et peut-être que j'aurais trouvé une femme qui me correspond mieux? Voilà la question qu'il a posée au Rav. Question intéressante. Alors, je l'ai lu quand j'étais jeune homme, hein, mais bon. Mais la réponse, je me rappelle. Le Rav, il a répondu comme ça. D'accord? Le Rav, il a répondu comme ça. Une réponse intéressante. Il a dit, en vérité, la Gemara a dit que le fait qu'un homme se marie avec une femme, c'est le mazal. C'est-à-dire quoi le mazal? C'est-à-dire qu'en vérité, la raison pour laquelle monsieur un tel se marie avec madame un tel, parce que c'était prévu dans le ciel qu'ils doivent se rencontrer, ils doivent se marier l'un avec l'autre. Attends, deux secondes. C'est un mazal. D'accord? C'est un mazal qui est destiné l'un pour l'autre. Seulement.
Attends, le mazal, ça veut dire quoi? Laisse-moi arriver.
Non, un mazal, c'est destiné. Seulement. Pour Akadosh Baruch Hu, pour t'aider à prendre le mazal qui te correspond, d'accord? Il va faire en sorte que tu vois pas les défauts. Parce que l'amour rend ta vue.
Et le mariage lui rend la vue.
Mais c'est vrai, ça. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Parce que Kadosh Baruch Hu sait que si tu vas voir les défauts au moment où tu la fréquentes, tu ne la prendras pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait en sorte qu'avec tes sentiments, ça cache les défauts. Soit tu ne les vois pas, soit tu minimises l'impact, enfin, en tout cas, l'ampleur de ces défauts-là. Mais après le mariage, tu vas les découvrir. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a tout gagné parce que Dieu voulait que tu te maries avec cette femme. Surtout quand c'est un premier zivou, surtout quand c'est un premier mariage. Pas du tout. C'est pas une arnaque. Ça veut dire que si tu veux que Dieu, c'est pas manipulé, mais bon, presque, d'accord? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu t'a poussé à faire quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je maîtrise ce que j'aime pas? Non! La preuve, voilà, ce jeune homme. Ce jeune marié qui a posé la question, il a dit, mais comment j'ai pas pu voir ça? Mais c'était gros, c'était devant moi, comment j'ai pas pu le voir? Je dis non, tu maîtrises rien du tout. Dieu, il t'a fermé les yeux, il t'a mis un truc devant l'œil, il t'a mis un truc devant là, t'as vu que ce que tu devais voir, t'as vu rien d'autre. Parce que tu devais te marier avec cette femme. Ah, je galère avec elle, eh ben, il faut que tu galères avec elle, parce que c'est un guilgoul, un truc comme ça, et ensemble, vous allez, Bezrat Hashem, réussir à enlever ce problème-là. Ah, ce serait sérieux. On dit que même les gens qui souffrent beaucoup dans le mariage, le rabbi, il décourageait très 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 fortement le divorce. Il disait que vraiment le divorce est vraiment dernier recours et que en vérité c'est malheureux qu'aujourd'hui un divorce est devenu tellement banal parce que il y a même pas un siècle aujourd'hui divorcer c'était un drame. Aujourd'hui c'est devenu banal et Rabbi disait comme ça. Rabbi disait que quand on est marié avec quelqu'un, même si on comprend pas pourquoi, c'est qu'il y a une raison, surtout quand c'est le premier mariage. Là, premier mariage c'est un mazal, c'est-à-dire que Dieu a fait en sorte de se marier avec elle. Il y a quelque chose, c'est pas par hasard. D'accord? Parce que le premier mariage, c'est le zivoug.
Ils avaient prévu déjà deux.
D'accord. Le second mariage, c'est pas...
Parce que le second mariage, ça dépend de tes mérites. C'est pas que t'es passé à côté. C'est Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Mais le premier mariage, si tu veux, c'est sur le compte de Dieu. C'est Dieu qui s'arrange pour que tu tombes sur la bonne. Le deuxième, ça dépend de tes actions. Si tu comportes bien, tu tomberas sur quelqu'un de bien.
Celui qui reste célibataire après le premier.
Ça, c'est son livre à 8. Maintenant, Dieu, il lui met devant, après il prend pas.
Ah d'accord, mais il a quand même...
Bien sûr. Dieu fait tout ce qu'il peut, maintenant il ne peut pas t'enlever ton libre arbitre. Mais ce que je veux dire ici, c'est est-ce que Dieu a décidé à ta place ce que tu es, est-ce que moi je décide, pardon, ce que j'aime, ce que j'aime pas? Non, je ne décide pas ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je décide rien du tout. Ce que je décide, c'est trois choses. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. C'est trois seules choses. À part ça, je décide rien du tout. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, ce sont les trois termes qu'il a utilisés, parce que c'est les trois choses qui correspondent aux trois choses qu'on peut maîtriser, et que ça, c'est Karov et Lecha. Moshe Rabbeinu dit, ça, tu peux le faire. C'est pas par hasard. Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu dire au Bnei Israël, vous inquiétez pas, vous pouvez devenir un tzadikim. Non, parce que c'est faux, vous pouvez devenir un tzadikim. Il leur a pas dit, vous inquiétez pas, vous allez sentir qu'en vous, ça vibre l'amour de Dieu. Non, c'est faux. Il leur a dit les trois choses que chacun de nous peut arriver. Tu peux parler de Dieu, tu peux penser de Dieu, et tu peux agir pour Dieu. Ça, tu peux faire. Personne peut dire ici qu'il peut pas le faire. Parce que tu peux maîtriser. C'est moi qui fais ce que je veux. Je veux penser des bêtises, je pense des bêtises. Je veux penser à la Torah, je pense à la Torah. Donc ça, c'est le facteur des trois choses. Et en vérité, si on pouvait résumer en un mot le Tania, c'est ça. Si on pouvait, en un mot, le Tania, c'est ça. C'est qui te dit, apprends à bien penser, à bien parler et à bien faire, et automatiquement, tu seras quelqu'un de bien. Et regardez les mots qu'il a dit ici. Vézé, kol Adam. Ça, c'est tout l'homme. Ça veut dire que, si tu veux résumer en un mot l'homme, ce qu'il doit faire sur Terre, c'est zé, kol Adam. Ce qu'on vient de dire ici. C'est, réfléchir, faire attention à ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. T'as réussi à faire toutes ces trois choses-là, tout le reste tu ignores. Ne t'occupe de rien d'autre. Juste fais attention à ces trois choses-là. Tu maîtrises que tu vas avoir de l'argent ou pas?
Non.
Est-ce que tu maîtrises?
Pas du tout.
Tu ne maîtrises rien du tout. Tu maîtrises est-ce que ton affaire va marcher ou pas? Rien du tout. Alors qu'est-ce que tu maîtrises? Tu maîtrises rien du tout. Walou, voilà, moi je te dis tu maîtrises walou. C'est rien du tout, c'est le mazal ça. C'est comme la femme. D'accord? Tac, ça vient devant. Des fois, c'est gros comme une affaire grosse, elle était devant, toi, tu l'as pas vue. Et un autre, il vient, hop, tu la prends. D'accord? Et des fois, c'est devant tout le monde, personne la voit, et tac, toi, tu la prends, elle était pour toi. C'est le mazal. C'est clair, c'est le mazal. On dit que, Akadosh Baruch Hu, vous savez, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça.
C'était une petite affaire, ça devient.
Il faut avoir la Emouna, surtout quand des fois, on peut avoir des concurrents dans la vie. Il faut avoir la Emouna que la Gemara, elle dit quelque chose de très très clair. La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, d'accord, la Gemara dit comme ça. Elle dit que personne peut enlever, même ne serait-ce qu'un cheveu de la parnassa de l'autre. C'est impossible. Personne peut enlever rien du tout de l'autre. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a des cas et des concurrences déloyales qui sont interdites par la Torah. Je parle pas de ces cas-là. C'est ça, dans ce cas-là, c'est un cas, il faut aller, c'est un cas. Mais quand c'est des choses qui se passent normalement et que une personne te dit oui, on m'a volé ma parnassa, personne te vole ta parnassa. C'est Dieu qui t'envoie, le même Dieu qui s'occupait de toi, personne peut te voler. Parce que, retenez, il y a que trois choses que je maîtrise. Tout le reste est sur le compte de Dieu. Ça veut dire, moi, par exemple, j'éduque mes enfants, je fonde une famille, je les amène dans l'école juive, etc. Maintenant, qu'est-ce que mes actions vont donner? J'en sais rien ce qu'ils vont donner, mes actions, moi. Quel va être le résultat? J'en sais rien du tout. Par contre, à quoi je vais penser maintenant? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, je maîtrise. Et c'est sur ça uniquement que je serai jugé quand j'arriverai en haut. Pas sur le résultat de ce que j'ai fait. Je serai jugé sur qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as fait. C'est sur ces trois seuls vecteurs qu'on sera jugé. Donc c'est déjà pas mal, ça, parce que au moins, on apprend sur quoi se concentrer. Parce que quand une personne dit, voilà, je sors d'un cours de Tania, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, tu sors de cours de Tania, tu sais, voilà, ce qu'on attend de moi, c'est de faire attention à ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Si j'arrive à me concentrer sur ces trois vecteurs, j'ai tout gagné. Qu'ils écolent à Adam, ça c'est tout l'homme, c'est tout.
Mais le fait de faire un choix, par exemple, dans un business.
Oui.
C'est-à-dire, on peut modifier.
Tu fais un choix, mais est-ce que tu maîtrises ce choix?
Bah oui, bah vu que c'est une décision qu'on a.
C'est une décision, mais est-ce que tu maîtrises ce choix? Alors, tu maîtrises rien du tout.
Donc là, on est un peu comme des robots.
Mais bien sûr, t'es comme un robot. Tu maîtrises par rapport à ce que tu connais. Tu maîtrises par rapport aux paramètres que tu as vus. Tu maîtrises comme tu peux. Mais quand tu prends la décision, est-ce que t'as tous les paramètres devant toi? Est-ce que tu peux imaginer de quoi ça aura l'air dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Tu sais pas. Quand tu prends une personne, par exemple, un jeune homme qui va fréquenter une jeune fille en chidour, d'accord, en chidour, et qu'on lui demande dans un espace de 3-4 semaines, d'accord, on dit hop, allez, décide-toi, est-ce que tu vas te marier avec elle ou pas? Ah, je vous dis, moi je me rappelle quand j'étais avec le Rav Azimov. Quand j'étais sorti en chidour avec ma femme, d'accord, 3 semaines, un mois plus tard, en plus à chaque fois il fallait à l'envers, c'est tout, 3 semaines, un mois plus tard, le Rav Azimov il m'appelle et dit alors. Il m'a dit alors. Alors bon, je lui dis bon, j'ai encore quelque chose pour réfléchir. Et il me dit ah, félicité, ça y est. Parce que le rabbi voulait. Non, c'est pas, pas que le rabbi.
On passe son tour.
Dans la Torah, non, pas qu'on passe son tour. C'est qu'il faut pas traîner. Si c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. T'as rien traîné. D'accord. Et tu t'imagines. Non, mais attends, tu t'imagines. Oui. Encore moi, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'avais les allers-retours. Moi, je connais des gens comme ça. En une semaine, ils ont fait. Mais tu dis, mais comment le bonhomme il fait pour en une semaine prendre une décision sur toute la vie? Tu crois qu'il la connaît parfaitement en un mois? Mais rien du tout, il connaît rien du tout. Alors qu'est-ce que tu fais? Par rapport aux paramètres que tu as maintenant, tu estimes que Dieu t'a envoyé le mazal et que par rapport aux paramètres que tu vois devant toi, ça a l'air de correspondre, le style a l'air de correspondre, ça a l'air de correspondre à ta manière de voir les choses, elle te plaît aussi. Bon, bah tiens, on y va. Parce qu'après, de quoi ça aura l'air dans 20 ans? Tu peux réfléchir pendant 15 ans, ça ne change rien, tu ne sais pas de quoi ça aura l'air. Donc je ne maîtrise pas. J'essaye de, d'accord, de, d'imaginer, mais je sais pas. Par contre, ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ça je maîtrise. Et c'est sur ça que je serai jugé. Rien d'autre.
Combien de temps vous avez dessiné?
Vous inquiétez pas, elle le sait, alors.
C'est accessible.
Mais en ce cas, j'ai une question. Quelqu'un qui est radin, tu veux qu'il maîtrise pas ça? Alors, c'est possible.
Bonne question. C'est une bonne question. Quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est méchant, il maîtrise pas le fait qu'il est radin. Par contre, ce qu'il maîtrise, c'est est-ce qu'il va suivre son caractère de ne pas donner, ou est-ce qu'il va se travailler pour donner. Et donc, l'action, c'est lui qui maîtrise. Alors même s'il est radin, il peut se forcer à mettre la main dans la poche et donner. Ça, personne ne pourra lui enlever. Peut-être. Ça, Dieu ne te jugera pas pour ça.
C'est l'effort.
Dieu te jugera sur le fait de ce que tu as dit, ce que tu as pensé et ce que tu as fait. Si c'était plus dur pour toi, ben, bien sûr, tu auras plus de mérite. Mais on ne te jugera pas sur le caractère que tu avais. C'est mon caractère, qu'est-ce que je fasse? C'est Dieu qui m'a créé avec ça, il m'a créé comme ça. Donc, ça ne sert à rien de chercher à changer son caractère. C'est une erreur. C'est ce que dit la demande à Zaken. Sur ça, d'ailleurs, ça correspond beaucoup à ce qu'on dit aujourd'hui dans la... Enfin, l'Avdil. Enfin, on ne dit pas l'Avdil sur un juif. Freud, d'accord? Freud, il va plus loin que ça. Freud dit qu'une personne ne peut pas changer son caractère. Il dit que c'est comme un animal, elle ne peut pas changer son caractère. Dans Tania, d'accord, bon, c'est pas ça ce qu'il dit.
C'est
vrai en plus. Dans Tania, il dit pas ça. Tania, il dit que tu ne peux pas changer ton caractère, mais que, comme on a vu dans le chapitre 15, tu peux te forcer d'avoir une seconde nature. Non, pas casser ta nature. Je ne peux pas casser ta nature. Tu peux forcer à avoir une seconde nature.
Seconde nature, c'est...
Seconde nature. Bon, on l'appellera toute la vie seconde nature. Ça veut dire quoi, seconde nature? Ça veut dire que forcément, c'est très, très possible que la première nature reviendra.
Donc c'est pas naturel.
Donc ça devient naturel, mais c'est très possible qu'un jour, d'accord, chasse le naturel, voilà, bon.
Il revient au galop.
Non, mais c'est très vrai. Ça veut dire qu'on peut pas changer, et on sera pas jugé sur ça. On ne sera pas jugé est-ce qu'on a changé son caractère ou pas. On sera jugé sur ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait. Befira ou Vilofra, la soto. Et ça, c'est pour ça que le rabbi a demandé qu'on dise ce pasouk-là aux enfants, parce qu'un enfant doit comprendre ça dans sa tête. C'est qu'il ne sera jamais jugé sur le résultat, il sera jugé sur ce qu'il dit, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il fait. Tout le reste, t'occupe pas. C'est pas ton problème. Qui zécola, Adam? Alors, dans les mots. Il y avait d'autres questions?
Finalement. Oui. Exercer son libre arbitre,
oui.
C'est uniquement dans les trois paramètres que tu viens de dire.
Uniquement sur ça.
Tu peux pas exercer. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de ce que tu as été créé.
C'est les trois seules choses que je peux maîtriser.
Donc finalement, l'exercice du libre arbitre, il se fait uniquement dans la maîtrise de la parole, de la pensée
et de l'action.
Et de l'action.
Trois choses, c'est tout.
Tu maîtrises pas un de ces trucs-là. Tu fais comme un robot.
Maintenant, attends.
Comme tu as été créé.
Attends, oui, d'accord. Je comprends où tu vas en arriver. Ce qui peut arriver. Non, mais attendez. Enfin, je vais pousser un peu plus loin. Ce qui peut arriver, c'est qu'une personne, à force de ne pas se maîtriser, il n'arrive plus à se maîtriser. Ça veut dire, par exemple, imaginez une personne, par exemple, que bon, il a la parole très légère, très facile, d'accord, et que bon, il s'est tellement habitué à débiter des bêtises, d'accord, que le bonhomme, même quand il veut s'arrêter, il n'arrive pas. C'est plus fort que lui. Bémet, c'est plus fort que lui, d'accord. Et ça, la Gemara a dit que Arechaim en libam birshutam. Que les Rechaim, c'est quoi leur plus grande punition? Leur punition la plus grave, c'est quoi? C'est que tellement ils ont fait des avérotes qu'ils ne maîtrisent plus leur cœur. C'est ça ce qu'ils n'ont plus maîtrisé son cœur. C'est-à-dire après, tu arrives à un moment dans lequel tu es pris dans une spirale que tu n'arrives plus à t'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus de libre arbitre. Ça veut dire que si tu veux, t'es mis tellement dans une routine que maintenant tu as une roue qui tourne très très vite et que tu n'arrives plus à l'arrêter. Mais elle peut s'arrêter un jour, mais c'est très 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 très, très dur.
Faut trouver le bâton.
Mais concrètement, elle peut s'arrêter, mais des fois, on n'arrive pas à s'arrêter. Mais ça, c'est ta faute. Enfin, c'est de ma faute, quoi. Ça veut dire, le bonhomme, tellement il a fait la vera, qu'après, s'il n'arrive pas à sortir, on lui dit, c'est ta faute. T'arrêtes pas de tourner, t'arrêtes pas de faire des bêtises. La Gemara dit clairement, elle dit que Rechaim en libam birshutam. Les Rechaim, leur cœur n'est pas, ils ne maîtrisent pas leur cœur. Alors que nous, on n'est pas des Rechaim, donc on peut maîtriser. Ouais.
On est des Rechaim,
techniquement, on est des Rechaim. D'accord, mais on veut bien faire, quand même. Je pense pas qu'il y ait des gens ici autour de la table qui veulent mal faire. Une personne qui veut mal faire, il vient pas au cours de Tania. Alors. Personne qui vient au cours de Tania, c'est qu'il a envie de bien faire. Après, est-ce que dans l'aspect, il veut bien faire ou pas? C'est une autre question. On a tous nos problèmes. Mais quelqu'un qui vient au cours de Tania, c'est quelqu'un déjà, il veut se travailler. Il se dit, bon, il faut que je m'améliore, je sais pas quoi. Bon, on va venir, on va écouter ce qu'il a à dire. Peut-être que c'est de la théorie, peut-être qu'on va comprendre. Peut-être que c'est pas le trop de la philosophie. Le pauvre, il va hésiter 10 fois la prochaine fois. Ah, c'est chelou. Le Chaim, Jackie.
Le verre de Jackie est vide.
Le verre de Jackie est vide.
Non, il est plein. J'avais deux verres, Jackie. Ah, t'as compté, toi.
Moi, je vois du tout. Ok. Une autre question ? On va continuer. Ki hayom la sotam tiv. C'est écrit comme ça. Toujours Moshe Rabbeinu dans la paracha. Alors là, c'est plus dans la paracha Nitzavim, c'est dans la paracha Vaetranan. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit, Hayom, la asotam. Il dit, aujourd'hui, la asotam. Asher anochim savetrem Hayom. D'accord? La asotam. C'est quoi, Hayom? Hayom, aujourd'hui, la asotam pour le faire. Ça veut dire quoi? Chez Hayom ou Olamama, c'est Dafka? Aujourd'hui, c'est le monde de l'action. Ou les machas roulés, et demain, c'est le moment où on recevra le salaire. Ça veut dire comme ça. Il y a des gens, ils attendent de recevoir le salaire d'une mitzvah ici-bas. Ils veulent vibrer la mitzvah ici-bas. Et s'il n'a pas vibré la mitzvah, il dit, je suis passé à côté de quelque chose. On lui dit non. Hayom, la sotam. Aujourd'hui, il faut juste faire. Ça veut dire, maîtrise ta parole, ta pensée, ton action. Ah, mais je sens pas que ça vibre, je sens pas. Les machars, c'est demain, ça. Les machars, le kabel sraram. Demain, c'est demain que tu vas recevoir le salaire. Mais hachan, ochim, tzavetrem, hayom, la sotam. Aujourd'hui, il faut juste faire. Il faut juste s'efforcer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si maintenant j'arrive à m'efforcer, que concrètement, je dis pas de bêtises, d'accord? Je fais pas de bêtises. Et je pense pas à des bêtises. T'as tout gagné. T'as tout bon. C'est super. Arrête-toi là. Continue comme ça. Ne te prends pas à la tête de savoir, je vivre pas. C'est pas ton problème. T'inquiète pas. Parce que Hayom, là, c'est Tom.
Pourquoi ça suffit pas de faire machinalement?
De faire?
Machinalement.
Ben, Matt, ça peut servir de faire machinalement. Mais le problème, c'est que tu dis d'un autre côté, qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Bilva phrase, c'est de l'aimer dans ton cœur.
Donc si je l'aime, je vibre.
Alors non, c'est pour ça qu'il explique au début du Pérec. Il a dit que il y a aimer que tu aimes tellement fort que tu vibres, il y a aimer qu'au fond de toi tu sais que tu aimes et c'est pour ça que tu fais la chose. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une femme. Bon, avec une femme, bien sûr.
C'est reconnu.
Quelqu'un qui s'est marié, d'accord? Quelqu'un qui s'est marié avec une femme. Au début, il aime très fort. Est-ce que ça veut dire après qu'on va dire que toute sa vie, il aime très fort? C'est pas forcément que dans la vie de tous les jours, il le ressent, ça. Mais c'est au fond de lui. C'est mes sous-tards. C'est quelque chose de mes sous-tards. Il y a des moments dans lesquels ça ressort. Mais est-ce qu'on va dire que dans la vie au jour le jour, ça ressort? Non, pas forcément, parce qu'il y a une routine. Mais ça veut dire qu'il aime pas. C'est pas grave. Tant que, concrètement, il se comporte comme un mari, il fait ce qu'il doit faire, parce que, concrètement, au fond de lui, il aime, c'est bon. C'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. On n'attend pas de nous que tous les jours, on soit comme Kippour. Non. C'est pas tous les jours le mariage. On attend de nous que tous les jours, on fasse ce qu'il faut faire. Que tous les jours, j'ai un minimum d'amour envers Dieu qui fait en sorte que ce qui doit être fait est fait. Pensée, parole, action, irréprochable. Si t'as ça, t'as tout gagné.
C'est quoi la Hagdara de la mitzvah Ve'afta? Comment tu définis cette mitzvah? C'est juste une Ahava Mesutera?
Ve'afta, c'est réfléchir à la grandeur de Dieu. Réfléchir à la grandeur de Dieu. Est-ce que Dieu représente pour moi dans ma vie? Pour m'aider à faire en sorte que je ressens juste un petit sentiment d'amour devant la complexité, devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si tu as réussi à avoir ça, t'as déjà fait la mitzvah.
T'as fait la pensée, la parole.
Pourquoi c'est impossible?
Tu me parles d'un pasouk
que dit tous les trois fois par
Moshe Rabbeinu.
Oui.
Il a dit ces choses-là à un peuple qui a eu la chance.
Mais la Torah est éternelle.
Ouais, mais... Il a eu la chance de voir Akadosh Baruch Hu.
T'inquiète pas, ils avaient leur challenge aussi. Nous, à leur place, on aurait vu un miracle qu'ils ont vu, on n'aurait pas fait zéro Averot. Et avec tout ce qu'ils ont vu, l'Averot qu'ils ont fait, t'inquiète pas, chaque génération, c'est challenge.
Si tu commences par la pensée,
on n'a rien vu, nous, aujourd'hui. On n'a rien vu, on n'a même pas vu l'ombre d'un miracle. Oui. Ils avaient des miracles devant eux. Comment ils peuvent fauter?
On a vu.
On n'a rien vu du tout.
Mais pas comme la mer.
T'as vu?
Enfin, c'est des petits miracles, quoi.
C'est qu'on a vu. Des ombres de miracles, hein, encore. Ouais.
Oui. C'était pas du surnaturel.
Ça reste quand même.
C'était pas du surnaturel. Petit par rapport à ce qu'il y a. C'était dans la nature.
Bon, alors c'est pas grave. Je pourrais répondre à la question de David. David, il dit des fois ça arrive qu'on pense à la chose, on en parle et on n'arrive pas à le faire. Ok, donc il te manque la troisième étape, mais c'est déjà ça. Si déjà tu as réussi à maîtriser ta parole, ta pensée, d'accord, même si t'es pas arrivé à l'action, c'est bien. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on te dit juste faire attention déjà aux paroles sur de ta bouche. Il y a beaucoup de gens, par exemple, je voudrais ajouter un détail important. Il y a beaucoup de gens qui font pas attention à ce qui sort de leur bouche. Ils sortent des bêtises de leur bouche. Surtout en France. Vous savez, j'étais aux États-Unis, j'étais en Israël, j'en ai beaucoup dans le monde. Il y a aucun pays que j'ai vu comme la France dans lequel les gens ils débitent des gros mots à une allure. Ça veut dire c'est classique quoi. C'est-à-dire dire un mot comme CON ou MERDE, c'est la norme, tu vois.
Parce qu'elle est riche la langue française.
Elle est riche, oui. Mais je vous promets, d'accord. Vous allez en Amérique, bon bien sûr, en Amérique, quelqu'un qui est énervé, il sortira un gros mot. Mais c'est pas dans le vocabulaire classique. C'est pas dans le vocabulaire classique. C'est pas dans le vocabulaire classique.
Mais les Américains, ils sont puritains, mais ils sont crapules derrière.
Ça change pas. D'accord. Chacun ses défauts. Chacun ses défauts. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'un des défauts qu'on a les Français, mais c'est un défaut qu'on a les Français. Un des défauts qu'on a les Français, c'est qu'on a le. La parole, des fois, on se lâche un petit peu. Donc, voilà, il te dit, fais attention à ce que tu dis. Fais attention sur ta bouche. Ça n'existe pas, dire sans penser.
Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple.
Ça n'existe pas.
Des mots que tu dis sans savoir la signification. À chaque fois que je fais quelque chose, je vais vous dire, je vais prendre un exemple simple. À chaque fois que je fais quelque chose, je rate, j'ai amené mon petit-fils avec moi le soir. Et à chaque fois, je fais hop, et je le dis fort. Et j'étais à la maison, le petit, il a fait tomber quelque chose, il a fait hop. Voilà. Il ne pensait pas.
Il a dit. C'est la population française.
Voilà.
C'est point virgule.
Il ne pensait pas.
Lui, il ne comprenait pas ce que veut dire. Oui,
ouais, il ne comprenait pas. Lui.
Je me rappelle quand on était à l'Eshiva, à Bruno, hein, il y avait un rave.
Dire aux mains,
il y avait un rave. Il venait d'une famille russe qui ne parlait pas français. Et il a appris le français dans les camps de réfugiés. Et tu sais, bon, les mots là-bas, les premiers mots qu'on apprend dans une langue, c'est les gros mots. Et je me rappelle. Il a appris les mots dans un camp. Et je me rappelle, d'accord, enfin moi j'ai pas connu, mais en tout cas il y avait des gens qui étaient à l'Eshiva qui le racontaient. Il disait que ce rave-là au début, quand il parlait aux élèves, il disait mais espèce de CON. Et comme ça, et les élèves ils s'entendaient, s'éclataient de rire, tu vois. Et le rave il disait, chaque fois il y a un rave, il faut qu'il y ait un élève qui l'expliquait, il lui a dit mais vous savez ce que vous dites. Et lui pour lui ça veut dire imbécile quoi, il comprenait pas ce que veut dire. Bon, c'est, évidemment, on peut dire des choses sans comprendre. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'importance de faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Vous savez que c'est écrit dans le contrat soumaïen, c'est écrit dans beaucoup de livres de Chassidout. Quand on sort un mot pas joli de sa bouche, on rend tamé la neshama. On rend tamé la neshama. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, une fois, j'avais sorti un mot tordu de ma bouche. Ma mère, elle m'a dit, tu vas te laver la bouche. Je vous promets, ça m'a marqué. Je vous promets. Une fois, j'ai dit un mot comme ça, j'avais appris dans le car ou je sais pas où. D'accord? Je suis venu, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère, elle m'a fait un scandale, elle m'a dit, va te laver la bouche. Mais c'est mort. J'ai retenu ça en tant qu'enfant. Que un mot, ça, parce que, et bien, après, j'ai vu dans les Sfarim, que quand tu dis un mot pas joli, tu salis ta neshama. Tu salis ta neshama, parce qu'un mot, ça laisse une trace sur le corps. Ça laisse une trace. Donc, l'importance de l'action, l'importance de la parole, et l'importance de la pensée aussi. Les gens, ils pensent dans une pensée tordue, après c'est fini, dis bon, c'est pas grave, après je pense à autre chose. Mais cette pensée, elle est restée dans la tête maintenant. Ça a laissé une trace. C'est fini, elle est dans ma mémoire.
Il a dit qu'il faut les chutes du Niagara, lui.
Non, le balade avec un lavabo.
Il faut faire attention, non, la vérité.
Mais on ne le pense pas.
La vérité, vous voyez des fois des enfants qui disent des gros mots, c'est moche. Et les parents, ils sont contents quand ils voient un enfant dire un gros mot, ça fait bien, tu vois.
Dire des gros mots contre des
gens. Je vous promets, des fois, je vois des enfants dire des gros mots, et tu vois les pères à côté, ils rigolent, comme Ahmad. Tu rigoles. C'est fréquent ce que je vous dis, hein. Ça fait de la peine. Qu'est-ce que tu dis des gros mots comme ça? C'est moche, c'est sale, c'est pas bon.
Ça n'a pas le sens. C'est du troisième degré, c'est pas.
C'est pas, non, change pas, ça change pas, ça change pas. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça.
On les parents des fois. Hein.
C'est du jeune âge, c'est là que ça se.
Ok. Donc.
Surtout qu'ils ont quoi faire.
Véa Moar, allez, rabotez, on continue encore quelques lignes. Donc, ce que je voulais expliquer, en tout cas, pour conclure ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que la Gemara Zaken insiste ici énormément sur le fait que qu'ils aient kol Adam? C'est quoi tout l'homme? C'est quoi tout, si on pouvait résumer en un mot, c'est quoi le travail d'un homme sur terre? Trois choses. Pensée, parole, action. Tu as ça, t'as tout gagné. Le reste, ne t'occupe pas, te prends pas la tête avec le reste. Tu réussis à maîtriser ta pensée, ta parole, ton action, t'as tout gagné. Il te dit, Ve'amohar shalit betivo ve'toldator chalas mani shebalev. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans quelques chapitres en arrière. On avait dit qu'une personne ne peut pas venir et dire, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un outil énorme, qu'on avait expliqué dans chapitre 12. Il nous a donné un outil énorme. C'est quoi cet outil? C'est que par définition, le cerveau domine le cœur. Pas le contraire. C'est pas le cœur qui domine le cerveau, c'est le cerveau qui domine le cœur. C'est le cerveau qui dit au cœur, maintenant tu arrêtes de penser à ça, maintenant tu penses à ça. Et c'est une chance qu'on a qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé comme ça, parce que si on n'était pas comme ça, on n'aurait pas eu de libre arbitre. Et donc automatiquement, on n'aurait pas pu être jugé ni en bien ni en mal. Dieu a créé l'homme que c'est le cerveau qui domine le cœur, pas le cœur qui domine le cerveau. Qu'est-ce qui se passe très souvent malheureusement ? C'est le contraire. C'est le cœur qui domine le cerveau. Le cœur, il a une pulsion, il envoie un cerveau, et le cerveau, comme Ahmar, il décolle, il dit, bon, maintenant, on va réfléchir comment on va voir ce que le cœur, il a voulu. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas le cœur qui doit envoyer au cerveau. C'est le cerveau qui doit envoyer au cœur. C'est lui qui doit lui dire, maintenant, tu penses à ça, et tu arrêtes de penser à ça. Ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, quand on va arriver en haut, Dieu pourra me dire, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je pouvais le faire. Il n'y a personne à part moi qui peut décider. Je pouvais le faire sans aucun problème. Je pouvais, moi, être celui qui décide à quoi je pense, à quoi je pense pas. Dans les mots, ce qu'il dit ici. Alors, le cerveau domine, bétive au vétoldato, par définition et par nature. C'est pour ça qu'il dit Kikarov. Maintenant, on comprend pourquoi il dit Kikarov. Quand Moshe Rabbeinu dit Obné Israël, c'est accessible, il ne veut pas les embêter quand il leur dit ça. Il leur dit, mais Dieu vous a créé avec un corps. Et dans ce corps-là, de série, le cerveau domine le cœur. De série, tu peux maîtriser ta parole, ta pensée, ton action. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est parce que tu t'es laissé aller. Mais en vérité, tu peux le faire. Donc Kikarov, c'est accessible. Ah, c'est difficile. C'est ta faute, c'est difficile. Mais tu peux le faire, Kikarov. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu nous dit, c'est pas pour nous embêter. Parce qu'il te dit, c'est la réalité, t'as un corps qui peut le faire. T'as tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, trois choses. Achal Asmel Shebalev, il peut dominer le côté gauche de son cœur, ça veut dire les mauvaises pulsions. Veal Piv, sur sa parole. Veal Kol Aivarim, mais sur tous ses membres. Shem Koach Amaase. Je maîtrise tous les membres qui représentent la force de l'action. Tous les membres du corps. Les mains, les pieds, etc. On maîtrise tous les membres du corps qui représentent l'action. Ça, d'accord, personne peut le maîtriser, personne peut le maîtriser à ma place. Alors, Imlo, sauf si, c'est ta question tout à l'heure. Il y a quand même un cas dans lequel on dit qu'une personne n'arrive pas à maîtriser, n'arrive plus à se maîtriser. Imlo, Michéou, Racha, Behemet. Sauf si c'est un vrai Racha. Et je vous mets au défi de trouver un vrai Racha aujourd'hui. Un vrai Racha, c'est une personne qui est née dans une famille religieuse, qui a grandi dans une famille religieuse, qui a quitté la Torah volontairement et que volontairement il fait d'Averot pour embêter Akadosh Baruch Hu, un vrai rachat. Là, quand c'est un vrai rachat, Dieu lui donne une punition. C'est quoi la punition que Dieu lui donne? Comme le Rachamim dit ce qu'on a dit tout à l'heure. La Gemara a dit, d'accord, c'est pas la Gemara, pardon, ça c'est dans Midrash Rabbah, qui dit que les Rechaim sont dans la possession de leur cœur et ils ne possèdent pas leur cœur. C'est-à-dire, normalement, moi je possède mon cœur, c'est moi qui le possède. Mais les Rechaim, malheureusement, tellement ils ont fait d'Averot, que c'est leur cœur qui les possède, et qu'ils arrivent plus à s'en sortir. Mais il dit, c'est pas parce que l'homme est construit comme ça. Ce rachat-là, ce petit rachat-là, quand il est né, d'accord, c'était pas un petit rachat, hein, Serge, t'es avec nous. Ce rachat-là, quand il est né, c'était pas un petit rachat, c'était quelqu'un de bien. Seulement avec le temps, à force de fauter. Vezeronesh, c'est une punition du ciel, al godel veotsem avonav. C'est une punition du ciel, sur le fait qu'une personne faute. Qu'une personne qui a fauté, tellement il a fauté qu'il a fait volontairement, alors c'est pour ça que la Torah te dit, bon, bah, toi, on va te mettre les bâtons dans les roues. C'est pour ça, comme c'est écrit aussi, on s'en verra dans très longtemps, dans les Guéret Hatshuva, la Gemara, elle dit, à Omer Echeta Veyashuv. Celui qui dit, je vais fauter et je ferai Teshuva. Ça veut dire qu'il va faire une Avera en se disant, je ferai Teshuva après. Il compte sur la Teshuva. Bien sûr qu'on a pas le droit de le faire, mais celui qui fait comme ça. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, En ma speaking beyado la sot Teshuva. On ne le laissera pas faire Teshuva. Morazaken explique dans Igaret Teshuva, il dit il faut bien faire attention au mot de la Gemara. La Gemara n'a pas dit il ne pourra pas faire Teshuva. On n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On le laissera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, avec son libre arbitre, il peut faire Teshuva. Mais c'est quoi la punition qu'on lui donne? C'est qu'on lui met les bâtons dans les roues. Chaque fois qu'il veut faire Teshuva, pac, on lui met une femme en face de lui, c'est fini, allez, hop, il oublie. Chaque fois qu'il est, hop, on lui remet un autre truc. Mais ça, c'est une punition que Dieu lui donne. Ça, c'est une punition que Dieu lui donne parce qu'il a été un rachat et parce qu'il a commis une avéra volontairement. Que Dieu lui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est un self-service ici? Quand tu veux, tu fais l'avéra, après tu dis, bon, maintenant je vais faire Teshuva. Non, ça marche pas comme ça. Tu as fait ce que tu voulais, ben d'accord, mais maintenant tu vas attendre que moi je veux que tu fasses Teshuva. Mais quand la personne il s'est laissé aller, c'était pas pour embêter Akadosh Baruch Hu, là c'est sûr qu'il peut faire Teshuva. Donc là on parle d'un vrai rachat. Celui qui a fait une avéra pour embêter Dieu et qui en a rien à faire. Il dit ouais, je ferai Teshuva quand je veux. Non, tu fais pas Teshuva quand tu veux. On n'est pas dans un service.
Par rachat, il peut d'accord faire de l'erreur alors.
Celui qui est par rachat. J'ai pas dit ça. Celui non, qui.
Parce que je vais vous faire rigoler. Ah. Je connais quelqu'un. Hein. Non, c'est vrai. Qui est très rigolo d'avant sur l'alimentaire.
Bon.
Et toute la journée, il dépanne. Des trucs, des frigos où il y a beaucoup de halouf.
Bon.
Et il voit des jambons, des machins.
machin, des tranches. Et il m'a dit, et il me dit, écoute, avant de mourir, il faut que je goûte ça. Mais après, je me fais pardonner.
Il s'est déjà raconté, mais
c'est vrai. C'est vrai, hein, il me le dit. Hein. Je lui dis, arrête tes conneries. Il dit, mais il faut que je le fasse. Alors, est-ce qu'il sera pardonné?
C'est dur pour lui, apparemment.
Je peux me présenter à ça.
Mais il ne fait pas ça pour...
Ça lui travaille la tête, bien sûr.
Bon, c'est une plaisanterie. Non, mais ça, on fera pas. Oui. Jackie nous raconte. Oui.
Je voulais déjà raconter. C'est un vieux rabbin qui, à l'approche des fêtes de fin d'année, il voit des belles charcuteries achalandées et tout. Il réfléchit. J'ai jamais mangé l'interdit. Il me rappelle l'histoire. Quand même, il faut que je goûte. Il regarde à gauche, à droite, que personne ne voit. Il rentre dans la charcuterie, la vendeuse lui fait « Monsieur, tu voudrais un bout d'œuf ?» Dès qu'il met la main comme ça, « Tenez, oh, il sort de quoi, on ne peut pas demander un renseignement, quoi, là
voilà. !» C'est ce que disait Mickaël. Tu connais quelqu'un, oui.
Quelqu'un qui a, quand il était petit, il a étudié.
Oui.
Là, maintenant, il a dit
« Bon,
il s'en fout. » Et il me dit « Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Comme je serai sur le lit de la mort, à l'hôpital, je ferai de chouva.
Mais d'après toi, pourquoi il a quitté la tour?
Ça, je sais pas. Il faut lui demander.
Ah, c'est ça. Il faut voir pourquoi il a quitté la tour. Est-ce qu'il y a une volonté idéologique de quitter la Torah? Est-ce que... C'est très... Moi, je te promets que avoir un vrai rachat, ça veut dire quelqu'un qui fait pour embêter, etc. C'est très, très, très rare. C'est possible que
quelqu'un qui a été...
ça existe.
Il a été très loin. Très, très loin. Très, très loin. Il m'a dit voilà.
Et il était religieux, ultra religieux.
Très, très loin. Très, très loin.
C'est compliqué dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vit plus dans un ghetto comme avant. Je comprends. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont imperméables à ce qui se passe dehors. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être imperméables à ce qui se passe dehors. C'est très compliqué à juger. Même si tu crois qu'il est né dans une famille religieuse, mais concrètement, quand on vit dans la cité comme aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça très difficilement. C'est très compliqué. Donc, c'est très difficile à juger. Je ne sais pas si on peut trouver un vrai rachat aujourd'hui. Et ça, c'est pas que Chabad qui dit ça. Hein.
Non, c'est la crise.
C'est pas que, non, c'est vrai. C'est pas que Chabad qui dit ça. Qu'aujourd'hui. Même les gens qui sont loin de la Torah, même si tu lui dis ça assourd, bon, c'est pas.
Même ceux qui ne pratiquent pas et quand ils veulent font une avérote, bon.
En tout cas, celui qui est rachat.
La pointe des pieds, quoi.
Voilà. Celui qui est rachat, d'accord, celui qui est rachat. Tu sais, on a un indicateur. Celui qui est rachat vraiment, c'est quoi? Celui, par exemple, Shabbat, il est en train de faire une avéra, il y a un rabbin qui le chope. Est-ce qu'il est gêné ou pas gêné?
S'il est gêné ou pas.
Oui. Peut-être que
il y en a, oui, mais c'est vrai. Vrai. S'il n'est pas gêné, c'est que ça, c'est que là, ça devient compliqué. Peut-être non, mais non, peut-être qu'il connaît rien du tout. Mais s'il a déjà été religieux, etc., et qu'il n'est pas gêné,
tu veux dire, il est abordé par un rabbin, c'est ça? Il lui dit qu'est-ce que tu fais?
Non, c'est il voit un rabbin. Tu vois, il a une cigarette dans la main, Shabbat, etc. Il y a un rabbin qui le regarde. Est-ce que le bonhomme il rougit un peu, tu vois, juste au moins un petit truc, ou bien il n'a rien à faire, comme ça. Moi, je pense pas que c'est très très rare de trouver un juif. Et je peux dire, j'en vois. Hein. Ah, je peux dire, j'en vois quand je marche Shabbat dans la rue pour rentrer chez moi. Je vois des gens, même de la communauté ou peu importe. Je vois des gens, des femmes avec des sacs et tout, je vois tout. Mais tu vois, ils te regardent, ils tournent la tête et moi je fais comme si j'ai rien vu aussi. C'est bon. Alors, pourtant.
La cigarette, c'est un mauvais
exemple. Tu peux pas lui dire,
hein? Mais il faut être
rare. C'est pas le moment. Tu vois, il rougit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reste avec le sac.
On reste par contre sur l'identité des produits.
Bon papier. Et là, qui vient aussi, il te parle, il sent la cigarette, le bonhomme. C'est Shabbat.
C'est vrai qu'on reste.
Mandy, il dit bon papier.
Mais non, Mandy, c'est la cigarette électronique.
Quelqu'un qui travaille à l'EDR.
Mais non, c'est une
polonaise. Il n'est pas la religion.
D'accord. Il est à la Shoah, il est passé par la Shoah.
Il est passé, mais il est à niveau zéro. Hein.
D'accord, non, mais d'accord.
Alors lui, son boulot, c'est... Alors les Juifs, il en a rien à foutre, Israël... Mais vraiment, quand...
Mais il est passé par la Shoah.
Oui, mais c'est pas vraiment...
D'accord, bon... C'est hors concours, ça, c'est hors concours.
Alors, mais il a toujours mis une identité juive. Mais alors, quand il arrive dans une maison où c'est des juifs pour couper le courant, il dit, je peux pas accéder à cette maison. Il coupe pas. Alors, j'ai dit, t'es feu. Il me dit, non. J'ai dit, pourquoi alors tu leur coupes le courant? Coupe le courant, merde.
Il y a quelque chose. Con, là.
Il y a quelque chose.
Pourquoi? J'ai dit, il y a quelque chose.
Il y a un blocage au fond de lui, là. C'est là.
C'est voilà.
Voilà. Donc, en tout cas, pour dire qu'il y a que les réchaïm, que même les réchaïm, en vérité, ils peuvent se maîtriser. Ils peuvent maîtriser pensée, parole, action. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que tellement ils sont laissés aller que Dieu les punit. Ils n'arrivent plus à s'arrêter. Parce que quand ils pouvaient s'arrêter, ils ont fait exprès de pas vouloir s'arrêter. Ils ont dit, oh, ça va, c'est bon, d'accord. Là, tu lui dis, tu fais pas ce que tu veux. Mais BMET, en vérité, toute personne au monde peut maîtriser sa pensée, sa parole et son action. Sinon, c'est très simple. Sinon, il rentre dans la catégorie de choté. On verra ça après, la semaine prochaine. Choté, c'est un fou. Un fou, c'est une personne qui se maîtrise pas. Et une personne qui se maîtrise pas, il est pas tour des mitzvot. Ah,
c'est cool,
voilà.
Ça.
Bah oui.
Ah, c'est cool, s'il est pas tour.
Une personne qui se maîtrise pas, il est pas tour des mitzvot. C'est cool. Alors, on a pas envie d'être traité de choté, quand même. Hein, je pense que personne ici est choté. Voilà. Voilà, donc c'est très simple. Choté, oui, pas choté. Alors. On n'est pas choté. Choté, ça veut dire que tu te maîtrises pas. On peut tous se maîtriser. Donc, pas d'excuses. Il faut maîtriser la pensée, la parole et l'action. S'occuper que de ça et de rien d'autre. Et si on a réussi à faire ça, on a tout gagné. Voilà. La semaine prochaine, on parlera, Bezrat Hashem, un peu plus du rachat. Et on va parler surtout de la notion, hein. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une mauvaise habitude qu'on a? Et que, bon, malheureusement, on est comme ce rachat. Des fois, on peut être sur, on est pas, le rachat, il est comme ça sur toute. D'accord? Sur toute sa vie. Nous, des fois, ça peut nous arriver qu'il y a une avéra spécifique ou une conduite spécifique que tellement on a fait qu'on est pris dans un cercle vicieux. On n'arrive pas à s'en sortir. Alors, est-ce qu'il y a des techniques pour s'en sortir? Parce que vous remarquerez qu'en général, la vérote auquel on tourne dans notre vie, en général, c'est toujours autour à peu près des mêmes choses, des mêmes challenges qu'on a. Et des fois, hein, on sent qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand, pour une avéra spécifique, on est comme ce fameux rachat? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Réponse next week. Alors, voilà.
On est des Bénonis,
des rachats,
parce qu'il y a des
raves,
des fois, ils disent,
ouais.
Moi, je suis
un Bénonis. Bien sûr, on n'est pas Bénonis.
Moi,
je parle pour moi.
Pour moi.
Moi, je suis ni Tzadik, ni Bénoni, d'accord? J'espère que je suis un bon rachat avec Tovlo. Évidemment.
Donc, on est tous dans les rachats.
Un Bénoni, c'est une personne qui faute jamais.
Ah,
ça veut dire qu'il a des pulsions, mais il laisse jamais dès qu'il se rend compte qu'il a une pensée tordue dans la tête, tout de suite, il arrête. Est-ce que nous, on est capable de dire qu'on arrête tout le temps? Est-ce qu'on peut dire que nos paroles sont toutes irréprochables, nos actions sont irréprochables? Non.
Donc, on est rachat,
on peut maîtriser.
Donc, on est, si tu veux, un rachat à faible niveau.
Peut-être sur quelques mitzvot.
Voilà, exactement. Maintenant, la question de la semaine prochaine, c'est comment faire pour se maîtriser dans les avérotes dans lesquelles on est devenu rachat et qu'on n'arrive pas à sortir. Oui.